Hey, de retour sur Radio Pirate Live, Jerry, on a ben il y a quelqu'un qui est en train de te gâter puis qui essaie de t'amener dans le mauvais chemin
ouais,
de
prendre
l'alcool le matin.
Là, il me pogne dans ma là je suis faible là, présentement, là. Je suis très 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 faible.
À ce point-là?
Oh, oui, oui, ça c'est sûr. Hey, devant moi, j'ai une multitude de bouteilles de rhum, imagine-toi là.
Ah ouais. Une douzaine là.
Moi, je suis un fan fini de rhum. C'est ça même.
Oui. Est-ce que le rhum vient d'un endroit un peu particulier ou le rhum vient de...
Le rhum vient de Vanuatu.
Tu veux la grosseur des bouteilles, hein? Moi, c'est un format que je connais pas.
Petit ou gros?
C'est le format de voyage, ça.
C'est le format de voyage.
C'est le format de voyage pour être légal. Hey Martin, re-bienvenue à Radio Pirate, comment tu vas?
Ça va très bien. Je suis très content d'être là.
Comment ça se passe? Viens-tu souvent au Québec?
Ah, ben là, la pandémie, je suis pas venu pendant 2 ans, puis là, je suis venu 2 fois cette année, je suis venu cet été, puis là, c'est la première fois à Noël cette année qu'on est là en 17 ans. Mon premier hiver au Québec en 17 ans.
Comment tu trouves ça?
Pas sûr que je vais être là l'année prochaine.
Tantôt, quand je suis allé le chercher en bas, il était vraiment habillé comme un homme des cavernes. Genre de gros casque de poêle. Il y avait comme 2-3 épaisseurs de manteau. J'ai dit, tabarouette, t'arrives de où?
Oui, un sac avec des bouteilles de rhum dedans. Il arrive de où, ce gars-là?
Mais il faut dire, par contre, que l'habitude des hivers se perd facilement. Moi, j'ai sauté quelques hivers dans ma vie, là, puis j'ai encore de la misère à récupérer ça, même après plusieurs années. J'ai comme encore de la misère. Ma fille a sauté son premier hiver complet l'année passée. Puis là, ben cette année, elle a beaucoup de misère. Là. Elle est comme elle est complètement perdue. En fait, il fait -2, puis elle me dit, est-ce qu'il va faire plus froid que ça? Ben, j'ai dit, -2, c'est une très belle journée d'hiver.
Oui.
Oui, c'est -2, c'est une très belle journée d'hiver. Mais on perd le... on perd facilement.
Ah, je ne veux pas me plaindre. Là, je viens ici 3 semaines, c'est super. Là.
C'est ça.
Puis mes enfants, ils ne comprennent pas, eux autres. Eux autres aussi, c'est la première fois qu'ils voient l'hiver. Puis
On est là-bas.
Mon fils, il me dit, mais c'est super, c'est beau. Tellement beau, papa.
C'est féerique.
C'est beau. Mais c'est beau parce que c'est 3 semaines.
C'est ça.
C'est ça, exact.
Mais tu peux-tu juste expliquer, mettons que moi, je suis un auditeur, là, puis on parle du Vanuatu, puis je n'ai pas regardé sur une map. Là. Peux-tu juste situer ça exactement? C'est où?
Oui, le Vanuatu, c'est à 3 heures d'avion de l'Australie. Donc, c'est dans l'océan Pacifique sud-ouest, et entre Fidji, la Nouvelle-Calédonie, puis les îles Salomon.
OK.
Donc,
depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, Martin, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pays? Comment vous avez vécu, la COVID? Je sais que dans ce coin-là de la planète, entre autres, un peu plus bas que vous autres, l'Australie, il y a eu quelques endroits un peu douteux. La Nouvelle-Zélande était dans un... Ils ont fermé ça pas à peu près. Comment ça s'est passé? Puis... Depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, qu'est-ce qui est arrivé dans ton coin? Y a-tu des changements majeurs? Raconte-moi.
Ouais. En étant dans le même coin que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on est très, très influencé par eux. C'est 75% de nos touristes viennent d'Australie, puis l'autre 10% viennent de Nouvelle-Zélande, puis c'est la moitié de notre économie, c'est le tourisme. La pandémie, nous, c'était très spécial parce que nous, on n'a pas eu de cas de transmission dans la communauté avant cette année, mars 2022.
T'es sérieux, là?
Wow!
Okay. Avant cette année, en tout cas, l'année dernière. Donc pendant les deux premières années...
On était vraiment isolés.
Les deux premières années, c'était on n'avait aucun touriste. Pour rentrer au Vanuatu, il fallait faire 2 semaines de quarantaine en hôtel strict, où tu sortais pas de ta chambre puis tu te faisais livrer. Donc nous, on n'est pas sortis du pays pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là, dans le pays, je veux dire, l'école tournait, le travail, tout était normal, en fait. On a vu la pandémie à la télévision, on n'a pas vécu la pandémie. Moi, j'ai mis mon... Quand je suis sorti au mois de mars, c'est la première fois que j'ai mis un masque quand je suis arrivé justement en Australie au mois de mars. Parce que quand c'est arrivé au Vanuatu, puis il y a eu un breach dans la quarantaine, puis finalement, il y a eu des cas de transmission... En fait, au Vanuatu, ça a duré à peu près 2 mois, puis après ça a été fini. Là. Mais quand c'est arrivé, nous, on est tout de suite sortis, on est partis, parce que là, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas partis. Fait qu'on a pris l'avion, on est allé en Australie. Là, j'ai passé 2 mois en Australie. Après ça, je suis venu au Québec pendant un mois et demi. Là, on s'est promené. Je voulais reprendre le retard que ça m'avait pris 2 ans, parce que moi, je voyageais quand même pas mal pour mon travail. Fait que juste dans la dernière année, là, tu sais, je suis allé à Chypre, je suis allé à Londres.
Tu travailles dans le domaine financier.
Oui. Je me suis promené. Là. J'étais allé au Japon, j'étais allé à Maurice, j'étais allé aux Seychelles, j'étais allé à Singapour. Je me suis promené. J'ai prouvé que la pandémie était finie et que c'était possible.
Qu'est-ce que ça fait pour une petite place de même de 300 quelques mille de population de voir qu'une de ces grosses business qui est le touriste, il n'y a rien qui se passe? Est-ce que ça a été dur pour les gens là-bas? Y a-t-il eu de l'aide? Comment vous êtes organisé avec ce changement-là dramatique qui s'est passé overnight?
C'est surprenant, mais ça n'a pas été terrible, en fait. Ça n'a pas vraiment... C'est un peu comme partout. Moi, j'aime dire qu'avant la pandémie, là, il y avait genre un volcan qui explosait là, en Islande, puis là, il n'y avait pas de vol entre l'Europe et l'Amérique pendant une semaine, puis là, on disait ça va affecter le PIB et la croissance mondiale. C'était terrible, tu sais. Puis en fait, la pandémie, on n'a rien eu pendant un an et demi, deux ans, tout a été arrêté. Puis en fait, au niveau de l'économie mondiale, ça a quand même continué à tourner. En fait, c'est les États continuent à imprimer de l'argent. Ils mettent de l'argent dans le truc. Fait que la demande qui était touristique, elle a été transférée vers d'autres choses. Ils ont construit des routes plus, ils ont fait d'autres choses. Puis en fait, au total, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, j'ai un cabinet d'expertise comptable, puis juridique au Vanuatu. Puis nos clients qui étaient le magasin d'informatique, mettons, ou le magasin de vêtements, ou le supermarché, ça n'a rien changé.
Ça n'a rien changé pour eux, les chiffres étaient pareils.
Ouais, au début, ça a peut-être fait un petit 20 % de moins, mais après ouais, ça, c'est revenu. Mmh. Ça n'a pas été l'apocalypse annoncée du tout. Mais je pense que ça a été un peu partout pareil. Hein.
Alors, la vie là, l'apocalypse. Quand t'es rendu avec un paquet de salade à 15,95$, on dirait que c'est là qu'on la vit.
Oui, parce que là, il y a eu tellement d'argent mis dans l'économie que là. Mais, ouais.
Est-ce que ça affecte le tourisme dans le sens que si les prix montent partout, là, tu dis les touristes qui allaient chez vous voir. Parce que vous autres, en fait, compte, c'est le tourisme puis c'est les banques, en fait, compte, qui font vivre la place. C'est ça. Parce que vous avez des genres de normes bancaires différentes d'ailleurs dans le monde. Vous êtes un paradis fiscal.
Oui, mais ça, ce volet-là, ça n'a rien à voir avec les Bahamas, les Bermudes, Jersey, Guernsey. Non, c'est minuscule au Vanuatu. On parle de peut-être 1 % du PIB. C'est comme insignifiant par rapport à... Il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers ou les sociétés, mais pas pour attirer ce business-là, parce qu'en fait, on est trop pauvres, nous, pour avoir ça. Il n'y a pas assez de monde et assez d'économie pour que ça vaille la peine d'avoir un système coûteux de collection. On a quand même l'équivalent de la TPS-TVQ. On a 15 % de taxes sur tout ce qu'on consomme. Il y a des douanes à l'entrée. Donc, le gouvernement se finance autrement. On a aussi un programme de citizenship. Donc, si quelqu'un veut devenir citoyen ou obtenir un passeport du Vanuatu, on a un programme pour les gens... pour un fast track, si tu veux, avoir une autre nationalité. Fait que ça aide aussi beaucoup à financer le gouvernement.
Mais tu veux te bâtir une maison là-bas, là? C'est-tu hors de prix ou tu peux avoir quelque chose qui a du sens? Là?
Non, c'est pas hors de prix.
Non, c'est pas hors de prix.
Non, c'est moins cher qu'en Australie ou qu'en Nouvelle-Zélande à côté de chez nous ou qu'il y a même qu'ici. Là. Les terrains sont moins chers, mais là, tu es à l'autre bout du monde. Là, tu es à la fin de la... Comme ici, on est un peu à la fin de la ligne au nord. Là, tu es un peu à la fin de la ligne au sud. Là.
Je comprends, mais quelqu'un, je sais pas, qui a fait son argent ici et qui est écœuré, là. Il sort du dôme, ça va chez vous, il y a appel.
À part que c'est loin, l'avantage, c'est que le Vanuatu, ça a été colonisé il y a 150 ans par les Anglais puis les Français. Les deux sont venus. Donc, il y a encore... c'est encore intéressant de parler français. S'il y a encore des avantages ou c'est encore possible.
C'est quoi le mélange? Parce que il y a la langue locale, mais français, anglais est là. C'est quoi le pourcentage? Mettons, je m'en vais là. Si je parle en français, y a-t-il beaucoup de monde qui sont capables de me répondre? Si je parle en anglais, c'est pas mal tout le monde qui est capable de me répondre. C'est quoi tout le monde dit la langue locale, c'est le bal. Comment ça s'appelle?
Bishlama, c'est un créole anglais. C'est comme quand tu vas en Martinique ou tu vas dans les îles des Caraïbes francophones. Puis
ou encore en Afrique du Sud.
Oui, en qui a un créole anglais, c'est ça. Mais le Bishlama, c'est parce qu'en fait, quand les Français et les Britanniques sont arrivés dans ce coin-là, il y a 150 ans, c'est comme le dernier endroit qui a été découvert là, par les navigateurs. C'était après pas mal l'Amérique du Nord ou le reste. Puis ils sont arrivés là-bas, puis ils ont fait comme ailleurs. Ils se sont servis des locaux comme esclaves, puis ils s'en sont servis pour couper les forêts d'une île à l'autre, puis tout ça. Puis en fait, les locaux, il y a 83 îles au Vanuatu, fait qu'il y avait des langues vernaculaires. Il y en avait 200, mais ils ne pouvaient pas se comprendre entre eux parce que même s'ils habitaient à 5 km, peut-être ils ne s'étaient jamais vus. Donc, pendant des millénaires, ils avaient développé des langues. Ce n'était pas juste des dialectes du même. Parce qu'au Vanuatu, c'est facile de vivre. La température est belle toute l'année. T'sais, quand il fait plus froid de l'année, il fait peut-être 17 degrés à 4 heures du matin au mois de juillet. Puis après ça, le plus chaud qu'il fait, c'est 30-32 parce que c'est en plein milieu de l'océan, donc c'est tempéré par l'océan. Donc, tu peux vivre tout nu, puis tu peux manger une papaye. Puis je veux dire, donc...
Ouais, ouais, tu peux marcher à pied à longueur de journée.
C'est ça, pas vrai de...
Non, on peut de nu-pied. Dans le sens que t'as pas de bas, t'as rien à pied, puis c'est pas
même. Donc, ils n'ont pas eu... Il n'y a pas eu vraiment une... Comment dire? Ils n'ont pas eu besoin de s'organiser en grands groupes. Il y avait des villages, puis des petites communautés, puis il y avait des langues complètement différentes. Mais quand les colons sont arrivés, ils les ont mélangés les uns puis les autres, mais ils ne pouvaient pas se parler entre eux. Donc, la langue qu'ils ont pu se parler, c'est d'écouter le master, d'écouter le colonisateur qui parle anglais, portugais, français, puis ils ont mélangé ça pour se faire une langue. Donc, en fait, leur langue, qui est leur créole, c'est une langue de coloniser parce que c'est plein de mots anglais mal parlés.
Puis le pays est indépendant depuis les années 80.
Oui, 1980, la même année que nous, on a choisi non. Eux autres
ils ont dit oui.
Mais eux, il n'y a pas eu de vote, eux.
Ah non?
Non. Eux, en fait, parce que les Anglais et les Français étaient là depuis 100 ans.
Oui.
Puis les Anglais et les Français, c'est très, très, très différent, ça. Hein? Fait qu'il y a une école anglaise, une école française, mais un hôpital anglais, un hôpital français. Il y avait des, il y a encore de nos jours, il y a des systèmes de piping, le plombier français ou anglais n'a pas la même dimension pour la toilette. Là, fait qu'il y avait comme dédoublé le système complètement, puis les natives, ils pouvaient être ou loyal à un ou à l'autre. Mais les Anglais, eux autres, avec Thatcher, dans les années 70-80, ils avaient une politique de décolonisation, donc ils s'en allaient. Puis,
oui.
Mais ils n'allaient pas laisser ça aux Français. Fait que quand ils ont décidé qu'ils partaient, ils ont organisé par en dessous l'indépendance. Donc l'indépendance, en fait, c'est les Anglais qui s'en vont, puis les locaux qui kick-out les Français.
OK, c'est ça l'indépendance.
C'est ça l'indépendance. Donc il n'y a pas de vote, puis ils deviennent indépendants. Mais les Français ne voulaient pas s'en aller parce qu'eux autres, ils ont encore la Polynésie française qui est Tahiti, là. Il y a encore la Nouvelle-Calédonie, qui sont deux colonies dans le Pacifique qu'on nomme pas en général comme étant des colonies, mais c'est clairement des colonies. Puis ça fait que 70% du territoire de la France...
Il appelle ça la France outre-mer, pour être poli.
Puis 70% de leur exclusive economic zone, les Français, c'est dans le Pacifique. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont encore invités à certaines tables pour discuter avec les Américains. C'est parce qu'ils ont encore ces colonies-là qui leur donnent la puissance. Puis,
oui.
Donc ils vont pas laisser ça aller. Fait que le Vanuatu, c'est le dernier pays qui a dit à la France, nous, on s'en va de notre côté. Donc, c'est le dernier pays qui a rejeté un peu le Grand Empire.
Est-ce que... Okay. Ça, c'est une question là qui est... T'as les gouvernements là-bas en haut. T'as-tu des espèces de gouvernements gauchistes à moitié fous comme ici, ou vraiment c'est du monde un peu plus ouvert? Moi, c'est ça que j'ai peur. Là.
Non, mais on n'est même pas encore rendu là, c'est ça qui...
OK.
Comme avant.
Y a-tu du monde woke là-bas?
Non.
Y a-tu des gars avec du Kitex bleu?
Y a-tu des gars avec du Kitex bleu?
Non.
OK, mais c'est quoi,
on va à tout, on est à l'époque où tout commence, toute réunion commence avec une prière, puis finit avec une prière, OK? Oh. Parce qu'il faut que tu remettes tout le monde égal, tu sais, puis ça, c'est le dénominateur commun, parce que t'as une diversité d'éducation dans les gens qui sont autour.
Oui, je comprends.
Parce qu'on leur a dit, il faut que vous ayez... les premiers qui sont arrivés, c'est les missionnaires. Puis après ça, on leur a dit, il faut que vous ayez une démocratie. Quand ils ont fait leur indépendance, on leur a donné ça. Mais en fait, il n'y a pas deux partis. Il y a comme 18 partis. Puis le gouvernement, c'est tout le temps une coalition. Donc, c'est toujours une histoire de
compromis?
Oui. Tu peux toujours...
Hey, Gilles!
Comment ça va, Gilles? Bonne année!
Oh ben, bonne année!
Moi, je pourrais mettre chaud ici un matin, je regarde la table, c'est peurant, là.
Il y a du rhum ici, c'est
incroyable. Il y a du rhum. C'est toi, ça? Attends, c'est l'aubergine, je l'ai pas vu.
Non, ça arrive de Vanuatu.
OK. Ah, ça vient de là-bas?
Ben oui. Ben oui.
Wow.
Ouais.
Moi, j'avais une question pratico-pratique sur... Est-ce que mobilier urbain, y a-tu des routes... Parce que vous parliez de nu-pied tantôt, je me disais un peu, là, je me ramassais dans un petit comique quand j'étais jeune, là, je voulais juste comprendre.
C'est parce que t'as 83 îles, fait qu'il y a une île où il y a la capitale, Port-Vila, où okay. Là, t'as peut-être 50 000 personnes, mais c'est à peu près la seule ville, puis là, c'est là que t'as les ambassades des autres pays.
Des rues asphaltées, toute la patente, je veux pas avoir l'air trop réducteur, mais parce que je me disais, ça conduit à gauche ou à droite? Parce que t'as les deux, fait que ça doit être un méchant problème, parce que s'il y a les deux...
Non, ça conduit comme ici.
OK, bon. Les Anglais ont perdu la tête.
Mais c'est ça. Mais tu vois, les Néo-Zélandais puis les Australiens, eux autres, c'est l'autre bord. Juste quand on prend l'avion, on sort, c'est l'autre bord. Mais au Vanuatu, c'est comme ici. Ouais. Mais Non, en ville, c'est, si on veut, c'est la modernité comme ici. Puis il y a des touristes qui viennent australiens. Il y en a à peu près 100 000 touristes par année qui viennent. Mais pour te donner une proportion, il y a 1 million de touristes qui vont en Fidji. Il y a à peu près 100 000 qui viennent au Vanuatu. Puis Fidji puis Vanuatu, c'est similaire en termes d'offres, de climat.
Ça se ressemble? Oui. Okay.
Ouais. On serait comme il faudrait qu'on se positionne comme étant l'alternative. Si tu vas pas à Fidji, tu vas au Vanuatu.
Par contre, être 1 million au lieu de 100 000, ça amène une pression, par exemple, pour des endroits plus petits de même. Des fois, c'est trop, là.
Ah, non.
Il en voudrais-tu plus, je pense,
Il y en a qui n'en veulent pas plus tout le temps.
C'est comme ici. Faut pas tuer un saumon pour faire des barrages ici.
C'est comme dans Yellowstone. Ouais.
Moi, je suis plus dans le côté qu'on en veut plus.
Ici, même à Saint-David de Falardeau, ils veulent pas voir de monde.
Non, c'est ça, j'ai vu ça matin.
C'est ça?
C'est mon coin, ça, j'ai été élevé là.
Oui. Toutes les histoires de location de chalets, puis tu vis dans le bois, là. Il y a du monde qui veut louer des chalets, laisse-les donc faire, là. Ils veulent mettre des espèces de lois anti-Airbnb à Saint-David de Falardeau.
Mais c'est le même monde. Jerry, c'est le même monde qui va dire à un moment donné, il faut que le gouvernement nous aide, il faut qu'il subventionne. Oui. C'est parce que c'est un pote, là. Tu veux pas avoir d'argent, tu veux pas t'aider, puis le gouvernement, c'est toi aussi, là. Moi, ça me fait rire. C'est comme s'ils déconnectaient, tu sais. Venez pas dépenser trop, laissez-nous la virginité, laissez les forêts, touchez à rien, c'est beau. Mais après ça, ça coûte de quoi, là?
Non, mais dans l'autre côté, il nous parle, posséder, ou comment ils appellent ça, le territoire. Là. Il faut occuper le territoire, puis on fait une route à Natashquan. T'sais. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de touristes.
Ça. Oui, c'est ça.
c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Est-ce que, là, quand tu es parti, là, parce qu'il y a des choses que tu as raconté, que je me rappelle qu'on avait parlé la première fois, même si ça fait un maudit bout quand même, le temps passe. Mais quand tu es parti là, est-ce que tu es parti avec l'intention de faire ce que tu fais là? Parce que là, je vois même des articles dans les journaux, je vois un paquet d'affaires, tu voyages beaucoup, tu as établi ta vie là.
Oui.
Est-ce que c'était ton plan au départ ou ça l'a complètement changé? Tu as une histoire de fille, je ne sais pas trop.
Non, c'était pas le plan au départ. D'ailleurs, on est revenu, on est parti en 2003, puis on est revenu en 2005. Puis moi, je suis parti avec... Madame Vanuatu en 2003. Puis, on n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Puis, on était parti pour... moi, j'avais 27 ans, elle avait 25. Puis, on était les deux experts comptables agréés. Puis, c'était un KPMG là-bas, un bureau. Puis, il y avait besoin qu'il y ait des gens qui parlaient français. Parce que quand tu parles anglais, c'est un avantage de parler français. Si tu parles juste français, c'est un handicap. Mais si tu parles les deux, le français devient un grand avantage pour t'exporter puis pour les opportunités sur la planète.
Juste là-dessus, au fédéral, ceux qui font les deux, là, sont avantagés, ils ont des bonis. Puis tout ça. Ceux qui parlent uniquement anglais, ce qui est la majorité au fédéral, ici au Canada, mais ceux qui maîtrisent les deux langues, demandera à des gens qui ont des cristis de bonne job là, parce qu'ils sont obligés de pallier pour tous ceux qui ne parlent pas français.
Exactement.
Puis, en théorie, on est un pays bilingue. Bon, c'est très bien que dans la pratique, c'est pas ça. Là.
Non, puis dans ce coin-là du monde, les Français, c'est encore un grand pays qui a de l'argent, puis donc il y a encore des... Il faut que tu parles le langage de ton client. Hein, c'est pour ça que je parle plus anglais ou français que je parle le bislama.
Ben oui.
Malheureusement, pour le bislama au Vanuatu, mais c'est... Quand ils vont devenir économiquement... Parce que c'est la façon de protéger ta langue, c'est de devenir puissant économiquement. C'est la seule façon, vraiment, si tu veux, de conserver ce que t'es.
À qui le dis-tu?
T'as pas à nous vendre ça,
la barnache.
Mais est-ce que tu te vois... quand t'es bien installé quelque part, tu penses plus au timeline, on va rester longtemps, mais quand tu dis, ben non, on va faire un autre 5 ans ou je me vois encore 10 ans ici, mais pourrais-tu mourir là?
Oui, mais moi...
Je ne souhaite pas de mourir.
En ce moment, je suis plus dans une optique où... c'est sûr que je ne vais pas revenir ici, là. OK? Mais est-ce que je vais revenir ici passer 3-4 mois par année? Peut-être.
Je comprends.
Mais est-ce que je vais me domicilier ici? Je pense pas parce que c'est... Bon, fiscalement, puis le climat, tu sais, je vous dis, c'est pas bon. Mais moi, j'ai plus un planning où je pourrais passer 3 mois au Vanuatu, peut-être 3 mois en Australie, peut-être 3 mois en Floride, peut-être 3 mois au Québec, mais je garderais ma résidence principale là-bas.
Puis de garder ici, c'est un attachement familial, les amis? Il y a encore ça, oui. Souvent, c'est ça. Hein? T'as beau faire du Instagram, c'est pas pareil, là. quand tu viens voir ton monde. Mais quand tu sais que tu vas repartir, souvent, c'est intéressant aussi. Ceux qui savent qu'ils sont...
Ah ben là, ça fait 20 ans, moi, que je suis
là-bas.
Plus
nomade,
là,
dans le fond.
Ça fait 20 ans qu'on me dit quand est-ce que tu vas revenir. À chaque fois que tu reviens, tu sais, mais comment c'est ce que tu veux dire. Mais quand on est revenu en 2005, c'est ça. Puis là, j'enseignais à l'Université Laval. Puis Marie-Ève, elle avait un emploi chez Taleo, là, qui a été racheté par Oracle là, comme contrôleur financier. On avait des bonnes jobs. On s'était acheté un appart sur Montcalm. On a duré un an. Un an et deux mois, puis on est reparti. Ben on est reparti pour te dire, Mme Vanuatu, elle avait 7 mois de grossesse, puis on est allé accoucher en Nouvelle-Calédonie, qui est à côté du Vanuatu. On a eu notre premier enfant, on a eu trois en fait, on a trois enfants, puis les trois ils sont nés là-bas, je disais au début, c'est la première année qu'on vient à Noël, fait qu'eux autres c'est leur premier Noël au Québec qu'ils voient, mais ma plus grande elle a 16 ans.
Oh! Et le froid, ben pas eu 30 froids ici, cette année était chanceuse.
Ils ont vu une fois la neige avant, parce qu'en Australie, contrairement à ce qu'on pense, il y a des montagnes assez hautes, tu peux faire du ski... au mois de juillet en Australie. C'est super.
C'est drôle parce que le genre de situation que tu vis, on peut écouter ça en se disant, es-tu chanceux pareil? Tu parles d'une belle vie, puis en même temps, on peut le penser. Sauf que moi, je suis persuadé que quand tu fais des choix, tu es fait peut-être plus jeune parce que c'est plus naïf, puis tu ne regardes pas trop aux conséquences possibles, mais c'est quand même un engagement, là. Tu es d'accord? C'est comme ceux qui partent, qui disent, ils vendent tout, puis ils partent 2 ans et demi, 3 ans en bateau. Tu peux trouver ça exotique, mais est-ce que tu le ferais? Et moi, je ne le ferai pas. Clair. Ce que tu fais là, c'est de déraciner pareil. Je te dis pas qu'il y a du bien parce que tu as vécu des choses, tu vis des choses qu'on ne vit pas. Tu es ailleurs complètement. Mais c'est une décision qui est lourde au début.
Mais moi, ma femme est aussi québécoise, puis mes trois enfants. Puis je veux dire, là, il y a ma soeur. Je suis pas un enfant unique, j'ai une soeur. Puis ma soeur est venue vivre au Vanuatu 5 ans après moi.
As-tu aimé ça?
Puis mon beau-frère, il est venu vivre au Vanuatu. Okay. Mes parents, ils venaient à chaque année avant COVID. 3-4 mois par année, ils venaient passer parce qu'on avait comme une maison où tu avais un appartement en dessous. Mes parents, ils venaient. Je veux dire, on est très, très attachés en même temps ici, très fiers d'être Québécois et d'être Canadiens. Puis ça nous sert bien. On a obtenu la nationalité là-bas, puis on a celle ici, puis c'est ça. Moi, l'idéal, ça serait de faire passer du temps ici. Un mélange. On a acheté une maison ici qu'on met sur Airbnb d'ailleurs quand on n'est pas là.
Je vais appeler le gouvernement.
T'as pas l'air réglo, ça. Hein?
Ah, ici, l'Airbnb, tu te dis, c'est une histoire.
À Berthier-sur-Mer, sur le bord du fleuve. Ça s'appelle Manoir-sur-Mer, si vous le regardez en ligne.
Oui.
C'est un homme d'affaires, je vais voir
ça. Oui, pourquoi pas?
Tu peux voir Manoir-sur-Mer, ça m'intéresse. Hey, Martin, dis-moi donc, on a parlé des conséquences un peu vite de la COVID, mais est-ce que vous avez, il y a des endroits qui ont été isolés, là, mais il y a des endroits qui ont été isolés un peu de... je te dirais, du genre de cataclysme inflationniste qu'on a eu dans la dernière année. Est-ce que, il y a des endroits, au contraire, que c'était pire que même nous autres. Là. Est-ce que vous autres avez été épargnés de ça? Comment ça se passe en ce moment, là, avec...
Non, nous autres c'est relativement stable. Là, je veux dire, ben, le pétrole a augmenté, puis nous, l'électricité, on la paye en fonction du prix du gazoil, parce que c'est la principale source. On a du solaire, puis on a du éolien aussi, mais c'est surtout une centrale thermique là, qui fait le donc, mettons que tu compares avec ici, là, nous autres, ça nous coûte cher. Là, ça nous coûte comme genre 60 cents du kilowatt, je pense que c'est 4 cents ici. Là. Fait que, sauf que nous, on en consomme pas mal moins, hein, parce que naturellement...
Ah oui,
on
fait beau, pas pire.
C'est ça, on chauffe pas le spa à l'année en cours. <t'sais, puis, rire> c'est beaucoup moins énergivore comme environnement. Même chose avec le pétrole. Je veux dire, l'île que j'habite là, à 50 km par 50 km, mais moi, donc c'est pas une tout petite île, mais quand même, c'est pas si grand que ça non plus. Là. Donc, tu fais pas autant de kilométrage que tu fais ici. Là. Moi, j'habite à 1 km de mon travail. Là, fait que c'est pour même si le gaz augmente. Après ça, au Vanuatu, ça a toujours été comme ça. Si tu veux manger des asperges, des brocolis, des trucs qui sont qui viennent des pays tempérés puis qui arrivent par avion, ça coûte cher. Puis si tu manges les fruits et les trucs locaux, il n'y a pas d'inflation sur le coût de l'avocat. Là. C'est la même chose. Puis la banane aussi. Là. Puis tu peux manger localement. Donc, c'est pas. C'est, disons que c'est pas. Les gens se plaignent pas trop de ça pour l'instant.
Mais... Hey, sais-tu Berthier sur mer, oui. Manoir sur mer, ton affaire?
Oui.
La maison okay, est de toute ça. Beauté.
Oh, wow. Ah oui, ça, c'était un monsieur qui s'appelait, qui était un garant, les Pelles Garant.
Oui, ben oui.
C'est lui,
oui,
c'est ben lui oui. qui a construit ça, cette maison-là, en 82.
Les bâtins, OK, vous n'êtes pas allé trop petit, là.
Puis là, on a eu cette opportunité-là. Mes parents, comme je disais, ils venaient au Vanuatu à chaque année depuis 20 ans. Puis là, la pandémie, ils ont 75 ans, ils ne peuvent pas venir. Puis là, ma mère arrive avec ça, qu'il y a un voisin à vendre, puis que c'est une succession. Puis là, on a décidé d'embarquer dans ce projet-là parce que c'était une opportunité, parce que c'était un bon prix, là, c'était intéressant. Puis... ça nous a fait un projet à distance qu'on a travaillé ensemble. Mm-hmm. Ma mère, elle a mis des cadres, ils ont acheté des meubles sur Marketplace, trucs. En fait, c'est une maison années 82, puis tout est années 82, mais en 82, quand ils l'ont fait haut de gamme un peu, 82. Fait que là, t'as des appareils là, électroniques dans la maison qui sont vintage, 82. On dirait que t'es dans
la, VHS?
La cuisine E.T., t'es comme dans le film E.T. ou des Goonies dans la cuisine, là. Donc, il faudrait mettre ça, là, si on voulait vivre dedans, tu mets ça au goût du jour. Mais si tu veux le louer puis le passer du temps vintage, je sais pas, c'est drôle comme ça.
Il y a, il y a de la tapisserie. À côté du fleuve, regarde, c'est toute beauté. Là.
Toutes les pièces ont une tapisserie différente.
Okay. C'est... Mais tu sais, quand tu loues, souvent, tu veux que ça soit propre, évidemment. Tu veux que ça soit confortable, mais tu n'as pas besoin que ça soit luxueux. Parce que tu vas avoir un prix qui est raisonnable. Mmh. Souvent, c'est ça, le principe Airbnb. Si tu vas trop élevé, tu changes un peu de braquette. Là, c'est moins intéressant, puis tu le loueras moins, à mon avis.
Oui, mais on ne veut pas vraiment beaucoup le louer,
non,
en fait.
Même pas.
On veut juste le louer à plus
des
à du monde qu'on connaît, okay. Puis assez cher.
C'est exactement ça.
C'est ça que je disais?
Oui, c'est ça qu'il faut faire.
Ouais. Non, c'est ça. Il ne faudrait pas trop le louer, parce que sinon, on ne voudra plus venir dedans, il ne sera plus à nous.
Non, c'est vrai. C'est deux façons de voir.
Oui. Non, mais le gars, il s'est fait un truc à l'époque. Là. Il y a une salle de jeu en haut avec une table de snooker. Tu sais. Il y a des okay. tables de miss. Comme s'il y avait un petit casino en haut avec poker puis blackjack. Puis en tout cas, installer un sauna, ça va être c'est top.
Là, c'est-tu là que tu pourrais vivre là? Je veux dire, quand tu viens ici?
Oui, là, on est là. Là.
Okay.
Là, on est là pour 3 semaines. C'est sûr qu'on, on est venu 2 fois cette année, justement, avec ce projet-là. On a décidé de venir 2 fois cette année. On l'a loué tout un mois au mois d'août. On l'a loué pour des chasseurs 2 semaines en novembre.
Oui, c'est ça. Mm. Les gars qui vont à l'ouest, soit ça. Mm. Là, c'est de toute beauté. Là. Vraiment.
Là, c'est quoi ton enfant dans le journal que je vois, là, l'article là, qu'il y a? Là, c'est quoi au juste que tu as eu comme genre de nomination?
Ah oui, ça c'est... Je suis le consul honoraire de Monaco pour le Vanuatu.
Oh! Welcome! T'as-tu une couronne? T'as-tu une couronne, le roi?
Le prince lui-même m'a choisi.
Ça te donne quoi?
Bon, ça, c'était un peu
ça a l'air short-cut. Sérieux, regardez la face, c'est dégueulasse. Ouais.
Donc, j'ai demandé au prince de me choisir.
Tu as des places pour la F1 à Monaco, quelque chose?
Mais là, c'est ma première. C'est récent, ça. C'est le mois de novembre ou octobre. Hein, donc, je ne sais pas ce que je vais avoir comme avantage lié à ça. Là. C'est une fonction, donc ça ne paye pas. J'ai pas vraiment de ressortissants parce que Monaco, c'est tout petit. Hein, c'est un pays de 2 km², Monaco, oui. Puis il y a 7000. Citoyens, il y a 40 000 personnes.
Il y a des belles valeurs pareilles là. Oh, Monaco, oui. C'est assez peurant. Quand tu arrives là, tu dis, voyons donc. Deux choses quand tu arrives à Monaco. Premièrement, comment ils font faire une course de F1 ici? Quand tu vois les montagnes, oui. Tout est escarpé, c'est malade. Tu dis, voyons, ça se peut pas. Puis deuxièmement, quand tu vois dans les vitres, c'est comment ça coûte acheter ou louer, tu dis, oh, OK, c'est pas pour moi. Ça n'a aucun sens comment c'est cher. Écoute, ouais. Le piétage, comme tu dis, il n'y a tellement pas d'espace. Tout ce qui est bâti est hors de prix.
Non, puis c'est aussi un endroit où. Ben là, on a le comment ça s'appelle le joueur de tennis là, qu'on a ici.
Al-Yassim.
T'es un grand sportif ou t'es un coureur de F1 ou t'as beaucoup de revenus, tu t'en vas t'installer là parce que t'as zéro impôt. Puis t'es en France. Donc
il y a des avantages, mais oui.
C'est un super coin. Mais bon, l'intérêt. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un consul honoraire avant moi, puis ce consul honoraire-là, je le connaissais bien, il était client au bureau, puis en fait, le type, sa femme a été, il était l'ophtalmologue, puis il était l'ophtalmologue du prince puis de sa famille, puis finalement, il a fallu qu'il reparte d'urgence en France, puis vive en France parce que sa femme était malade. Mm-hmm. Donc, j'ai vu l'opportunité de l'ouverture de prendre le rôle, donc j'ai fait une demande, je leur ai expliqué que le consulat était déjà installé à mon bureau, puis il n'y a pas vraiment de ressortissants non plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail, mais il y a une fondation marine, le prince, puis il fait il fait de la recherche dans les fonds marins, puis en fait, il y a la mer de Corail à côté de nous, puis il revient périodiquement, donc c'est bien d'avoir un point d'attache, fait que je vais aider à faciliter ça, parce que j'ai, en étant 20 ans dans un pays tout petit comme ça, je veux dire, c'est dur à imaginer, mais tu peux... Je peux aller manger avec le premier ministre ou le ministre des Finances, si je veux. C'est à cette échelle-là. C'est beaucoup plus petit. C'est une économie gros comme Montmagny, mais dans un pays. Tu sais. Je veux dire, c'est un village. Là. Je veux dire, mais c'est un village multiethnique. C'est très intéressant parce que où mes enfants vont aller à l'école, les plus jeunes, il y a genre 32 nationalités dans une école. Oui. Tu as ça à New York ou dans une ville, mais
dans la même école. Là, tu parles de la même école. Tabarouette.
32 nationalités dans une école, mais tu as une ville de 50 000 habitants.
À partir de quand il va falloir qu'eux autres switch deal pour les études supérieures? À quel âge, mettons?
Ils peuvent. Il y a l'école française puis il y a l'école en anglaise. Tu vois, il y a un lycée français. Donc, tu peux faire jusqu'au bac. Donc, tu peux faire jusqu'à 17 ans dans l'école française.
Pour se comprendre ici, ouais. Là, c'est à peu près ça.
Mais, ma fille qui est en secondaire 4, là, qui a fini secondaire 4, le calendrier finit en décembre au lieu de finir en juin, là, parce que c'est l'hémisphère sud. Puis là, elle s'en va l'année prochaine en Australie en boarding school.
OK.
On pensait jamais ça. Mais c'est classique et traditionnel pour les Anglais que les enfants au pensionnat, genre au secondaire.
Elle est contente d'aller là?
Oui.
C'est son choix? Okay.
Ouais, c'est son choix à elle. C'est une école de filles, puis il y a tous les équipements, c'est top.
C'est une île à côté?
Non, à Sydney.
À Sydney, OK. C'est un Sydney, petit peu, ça se fait pas en chaloupe, là.
Sydney, en Australie, oui. C'est un vol de 3 heures.
Quand même, c'est pas si... Ben, c'est loin, mais tout est relatif. Rendu là, t'es déjà loin.
C'est ça.
C'est quoi le potentiel, tu sais, t'as des voisins qui ont développé encore plus leur tourisme, qui ont une réputation, c'est dans le bucket list de beaucoup de monde, peut-être qu'ils sont avantagés un peu plus au niveau des plages, je sais pas. Mais est-ce que tu penses que vous avez un potentiel, je veux dire, mettons qu'on se rapporte dans 50 ans ou dans 75 ans, ça va être peut-être une place où ce que les gens vont avoir le goût d'aller en vacances, comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un... Sens-tu que, je comprenais tantôt ce que tu disais, là, c'est un peu partout de même, il y a des gens qui veulent qu'il n'y ait rien qui bouge, puis que ça reste pareil, puis qu'on ne veut pas voir des touristes arriver, puis scraper toute la patente. Mais est-ce que tu penses que vous avez un gros potentiel, puis qu'un jour, cette place-là va devenir une place aussi connue que les voisins alentours, ou finalement, ça va rester pareil dans 50 ans?
Non, genre, je pense qu'au niveau du tourisme, ça va juste aller en grandissant, je suis convaincu. Après, c'est pour faire une économie riche, puis pour passer à un autre niveau, pour moi, il faut que tu diversifies un peu ton économie. Tu ne peux pas être juste de l'agriculture et du tourisme, mais puis c'est un peu ce que les grands pays ils font comme un peu encadrer les petits comme ça, puis ils disent, toi, tu vas t'occuper de ça, puis ça finit là. Puis là,
il y a un contrôle en faisant ça aussi pour eux autres. Ben oui, ça.
Oui, c'est la théorie des avantages comparés. Tu spécialises dans un truc, tu échanges avec l'autre, tu es supposé gagner, mais c'est l'autre qui décide. Tu vas te spécialiser juste dans ça, puis tu ne feras rien d'autre. Mais là, ça limite un peu. Non, au Vanuatu, pour le tourisme, il y a un volcan sur une autre île qui est à 1 heure d'avion de la capitale, là, qui est actif, puis c'est fantastique, là, je veux dire. C'est le volcan le plus accessible, ils disent, au monde. Là, tu peux aller marcher sur le rim en haut, puis tu vois le rouge, là, puis ça explose.
Ben voyons,
puis,
je veux dire, c'est top. Du pied, Jeff.
Il y a des îles au nord, dans les Banks puis les Torres. Non, c'est vraiment un super endroit. Ça se compare avec Hawaï, tu sais, c'est dans les genres de... Sauf que c'est dans le Pacifique sud-ouest au lieu d'être dans le nord-est qui serait Hawaï. Tu sais.
Est-ce que t'en vois-tu d'autres développements? Y a-tu des développements... Tantôt, tu parlais d'impôts sur le revenu qu'il n'y avait pas. Tu peux même amener probablement d'une certaine manière, des sièges sociaux de compagnies qui ne veulent plus payer d'impôts dans les structures des nouvelles compagnies d'aujourd'hui qui sont devenues toutes mondiales.
Non, le rêve, ça serait de pousser ça comme Singapour, de développer quelque chose comme ça dans une plaque. Ça serait le rêve, mais je pense l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France dans le coin, ils vont pas laisser aller. Ils vont pas nous laisser faire ça. Ils travaillent contre. Oh, oui,
l'argent, hein?
C'est ça. Il y a de plus en plus d'intérêt vers la région parce qu'en fait, en Australie, ils ont une paranoïa envers la Chine. Ça fait que ça, c'est comme pour eux, la Chine...
Je les comprends, moi. Ouais. Ils sont durs à suivre, la Chine.
Oui, mais la Chine, à date, ils n'ont pas envahi aucun autre pays. Non, je veux dire, ils n'investissent pas les pays, avec des armes. Il y a un quartier chinois dans toutes les villes du monde, puis ils viennent par l'intérieur.
La puissance économique les aide, comme les Américains, dans le fond. C'est une force grande, mais la crainte, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils pensent, ce qu'ils développent, puis ils sont capables de... N'importe quelle idée qu'ils décident de mettre de l'avant, ça marche.
Mais tu demandais, tu sais, il y a le tourisme, il y a l'agriculture, mais la grosse économie qu'il y a chez nous, c'est l'aid money, le global warming money, c'est l'argent des ambassades puis du développement. Et là, ça, je pense pas que par tête de pipe, il y a un pays qui a été plus aidé financièrement que le Vanuatu. Parce que c'est. Mais ça aboutit à rien. Ça. La plupart du temps, c'est du gaspillage, puis ça ils font des colloques, des conférences,
oui,
des awareness.
La montée des eaux, puis si les îles vont disparaître. Des poissons. Ça, c'est payant, ça.
Ah, mais allez-vous disparaître, vous autres? Êtes-vous dans la liste des îles qui disparaissent?
Bien, on est dans la liste, mais moi, je pense pas qu'on devrait être dans la liste. T'sais. Je veux dire, ça dépend comment... C'est... c'est des îles de corail qui sont... Moi, ma maison, je suis en haut de la colline, si tu veux, puis il y a une patate de corail dans ma cour. T'sais. Fait qu'avant, il était en dessous de la mer. Et moi, je pense que c'est une île qui monte.
Une patate de corail.
Au lieu que ça soit une île qui descend. Puis, mais après, je veux dire, c'est sûr que c'est facile, hein? T'es sur une île, tu dis l'eau va monter, puis ça va aller mal. Mais bon, on va voir. Moi, je pense que non. Le prix des maisons, c'est jamais été au plus haut que maintenant sur le bord de l'eau. Je veux dire, donc, oui. Tu peux dire money talk. À un moment donné, c'est...
Ça ne sera pas dans deux semaines non plus. Là. Si ça arrive, c'est sur des dizaines d'années, j'imagine. Parce que est-ce que l'érosion, tout ça, voyez-vous? Parce qu'il y en a que c'est visible. Ça dépend. Ici, au nord, il y a des endroits où c'est assez visible. Puis assez rapidement, chaque année, ils mesurent ça en termes de mètres. C'est que tu perds en bord de même. Vous, c'est-tu de même? Pas, vous n'êtes pas là? C'est-tu mesuré?
Je veux dire, c'est des. Il y a des îles qui sortent, tu sais, qui changent toujours de shape, là, puis des plages qui changent de shape parce que, je veux dire, il y a des saisons.
Ben oui.
Donc tu sais, je veux dire, tu peux. C'est un peu comme la diseuse de Bonaventure dans son café. Tu peux tout le temps trouver façon de dire ce que tu veux dire avec le truc.
Mais c'est pas la préoccupation première chez vous, là?
Ben, pour les locaux, non. Mais pour...
OK, je comprends.
Pour, si tu veux... Si tu as un projet de développement, il faut que tu l'attaches à un objectif de résilience de climatique, je veux dire. Mais en fait, tu es dans un pays qui est sous-éduqué, puis qui a un système d'éducation pauvre, parce que c'est normal, c'est un pays qui a été colonisé, puis qui a été pillé, puis après ça, il y a juste 40 ans d'indépendance. Puis comme je l'ai dit, c'était une indépendance qui était un peu poussée, donc c'est pas... Donc c'est très, très difficile à développer. Là. Je veux dire, la différence entre un pays riche et un pays pauvre, c'est dans un pays riche, tu as des bons docteurs, des bons dentistes, des bons comptables, tu as des skills...
Oui.
Tu as des gens qui sont excellents. Puis c'est ça, les États-Unis, là, c'est ça, le Silicon Valley, tu as des brains. Puis c'est ça qui fait de la richesse. Ouais. Dans un pays pauvre, ben, tu as moins de brains, pas parce qu'il n'y a pas de capacité, parce qu'il y a eu moins d'éducation, parce que les parents n'ont pas donné un livre à l'enfant à 3 ans, puis il s'est pas assis avec. Je veux dire, puis ça peut prendre des générations à faire avancer. T'sais.
Là, la table est bourrée de bouteilles de rhum. Puis. Toi, t'as une distillerie de rhum. Là.
Hein?
C'est capoté pareil. Là. Attends une minute. Là.
Dans sa valise.
T'as pas assez d'affaires à faire encore? C'est quoi l'histoire? Là? T'as parti avec un de tes chums?
La distillerie, c'est mon beau-frère. Donc c'est le frère, un des frères à ma femme qui est le maître distilleur. Si tu veux,
maître distilleur.
C'est lui qui s'occupe de ce projet-là.
Toi, t'es goûteur, lui, il est distilleur. Okay.
Ouais, ouais. Testeur.
Ah, j'ai le testeur.
Ouais. Donc, c'est un projet familial. Donc, nous, on finance là, ce projet-là. Puis, quand tu parlais de la diversification de l'économie ou le futur du tourisme ou qu'est-ce qu'on peut faire au Vanuatu, là, je pense qu'on est direct dedans. Au Vanuatu, il n'y a jamais eu de rhum de produit parce qu'en fait, il n'y avait pas de plantation de canne à sucre.
OK.
Mais la canne à sucre pousse dans la nature, dans la jungle. Parce que la canne à sucre, c'est une plante qui vient de la Mélanésie. Ça a été amené par Christophe Colomb
dans les îles,
puis ça venait en fait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Mélanésie, du Vanuatu, puis ça avait été amené par l'Inde vers l'Europe.
Les conditions météo sont parfaites pour ça.
C'est ça. Donc, c'est une plante, c'est comme la tomate vient de l'Amérique du Sud, puis truc. Ça, c'est une plante à nous, la canne à sucre. T'sais. Donc, c'est... Mais il n'y avait pas de grandes plantations, donc il n'y avait pas d'usine à sucre, puis normalement... tu fais du rhum avec la mélasse. Donc, avec tu fais mélasse. Du rhum quand tu recycles un déchet de l'industrie sucrière, tu fais du rhum avec, tu sais, parce que ça ne te coûte rien comme matière première. Mais nous, on fait du rhum. Au départ, on a débuté avec la mélasse de Fidji puis de la mélasse d'Australie pour pas se donner la mission de devenir nous-mêmes agriculteurs puis de planter de la canne. Mais on a lancé, nous, on achète toute la canne que vous pouvez nous amener aux locaux en leur disant, si vous nous amenez de la canne, on l'achète à 300$ la tonne à peu près. Donc, c'est 10 fois le prix qu'elle serait achetée à Fidji. C'est quand même encore pas cher, mais c'est à peu près l'équivalent que ça nous coûtait d'importer la mélasse. Puis la première année... Là, ça fait 5 ans. La première année, on a eu 20 tonnes. La deuxième année, on a eu 80 tonnes. La troisième, 160 tonnes. Puis cette année, 300 tonnes de canne qui est produite. Donc là, tu comprends que là, on fait travailler les...
Non, il y a du monde qui ont parti des business, justement, pour te vendre de la canne.
On trouve un moyen de donner de l'argent aux locaux pour faire pousser des choses sur leur terrain. Fait que là,
on est content, là. Ils vous aiment.
C'est génial.
Ils nous aiment. C'est ça.
Est-ce que 300 pour la tonne, pour eux, ça représente beaucoup d'argent?
C'est pour eux autres? C'est pas énormément d'argent, mais c'est assez payant pour les motiver. Ouais, c'est suffisant pour... C'est la démonstration de la main invisible d'Adam Smith. C'est le fait que tu fais juste mettre un prix, puis dis on achète tout, puis le marché, t'as pas besoin de posséder le champ ou de posséder l'équipement ou de rien faire. T'as juste besoin d'amener la demande, puis l'offre va se gérer elle-même.
C'est ça, exactement.
C'est ça que le gouvernement...
Okay, donc là, ton produit, t'en fais combien à partir du nombre de tonnes que t'as, puis nous autres, produit, donc combien de bouteilles, puis combien t'en vends local, puis est-ce que t'en exportes, comment ça marche?
Ouais, nous autres, on a notre distillerie, notre usine, si on veut, là, on est capable de produire, on produit un baril par jour. Okay? Un baril, c'est 200 litres. 200 litres, on le met en baril à 55-60 degrés d'alcool. Fait que ça équivaut à peu près à 400 bouteilles par jour, là, une bouteille de 750 millilitres. Ça, c'est
Tu réussis à les couler sur l'île directement
non,
ou
pour l'instant, ce qui nous aide, c'est qu'on met tout en baril ou pratiquement tout en baril. C'est-à-dire qu'on met ça en fût pour le vieillissement. Donc là, on a à peu près 400 barils de rempli. Puis là, parce qu'il faut que ça vieillisse,
bon, hein?
C'est meilleur quand ça vieillit.
Non, mais il prend de la valeur, là.
Oui.
Ça prend de la valeur.
C'est ça. C'est contre l'inflation, c'est moi, je mets ça dans le... Je mets le liquide dans le baril.
Ben, oui.
C'est là, au lieu de mettre de l'argent dans la banque, je mets de liquide dans le baril.
C'est génial. C'est génial.
Puis et là, le but, c'est quoi? Le but, c'est de l'exporter ou de le vendre local? C'est de l'envoyer en Australie, j'imagine?
Oui, il y a deux, trois lignes pour les revenus. Là. On veut faire un produit qui est de haut de gamme, là, qui est comme du rhum qu'on peut trouver en Barbade puis en Jamaïque. Puis bon, donc, il se vend assez cher la bouteille parce qu'on pense qu'il y a comme un marché pour les gens qui sont des clubs, des connaisseurs qui veulent avoir une bouteille du Vanuatu qui est juste nous, tu sais, puis c'est un nouveau pays à mettre sa carte. Puis il y a des boutiques spécialisées pour ça. Ici, malheureusement, il n'y a pas de boutique spécialisée pour ça, mais il y a plusieurs pays qui ont des boutiques juste de rhum.
C'est ça. Mais s'il y a des clubs, des fans de rhum qui se mettent ensemble, ils ramènent des bouteilles, ils sont allés à telle place, ils ont acheté une bouteille, tu sais, ils vont se séparer des bouteilles, tu sais, ils vont...
Le whisky, c'est la même chose, il y a des clubs d'à peu près toutes les spécialités, c'est vrai.
Ça, puis ça, il y a ça, nous, c'est le Japon, c'est Singapour, c'est l'Australie. Puis après ça, on a un volet touristique, là, parce qu'il y a quand même les 100 000 touristes qui viennent. Ils ont plusieurs activités à faire extérieures, si on veut. Là, la plage, les trous bleus, le snorkeling.
Sur l'eau, j'imagine, ils font
le snorkeling. Mais là, visiter une distillerie, puis avoir un cocktail bar, puis tout ça. Donc il y a ce volet touristique-là. Puis on a des cruise ships qui viennent pas mal. Fait que c'est les gens qui viennent en cruise ship... En général, c'est un bon, une bonne activité pour eux.
Vous avez l'air d'avoir une bonne variété quand même. C'est pas uniquement rhum pur. Là. Je vois qu'il y a toutes sortes de... C'est des variétés différentes.
Ouais. Là, j'ai amené quelque chose qui est une curiosité. Celle-là, c'est un orangello. On fait avec un orange local.
D'un limoncello.
C'est l'orangello.
Ça, c'est pas destiné à être... c'est pas destiné à être exporté du tout. C'est juste pour le marché local.
Est-ce qu'il y a un site web... Martin, y a-t-il un site web que je peux aller voir? Puis les gens qui écoutent, on est-tu capable de voir quelque chose quelque part?
Oui, 83 Island.
83 Island.
Oui, 83 Island.
Distillery. OK. 83 Island.
Oui, 83 Island.
OK, je la vois. Ben 83
Island.com.
Non, bien, pété. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ton beau-frère? Il s'est ramassé là-bas, puis de même parce qu'ils étaient allés voir en vacances. C'est quoi qui est arrivé, lui?
Oui, lui, il avait un, maîtrise en communication à l'Université de Montréal, puis il était chargé de cours là-bas, puis il a toujours été un touche-à-tout, puis un autodidacte, si tu veux, puis il avait cette passion-là pour le whisky, puis donc quand on a commencé à en parler, il a été faire certains stages dans des distilleries ici au Québec, puis après ça, il a été faire un cours aux États-Unis. Et après, ben, il est venu, il a décidé qu'il faisait le pas, il venait au Vanuatu, puis que nous, on investissait, puis que lui, il allait investir son temps puis son énergie là-dedans. Puis finalement, ça fait 5 ans. Tout ce temps-là, il a rencontré une Néo-Zélandaise, puis il est marié, il a 2 enfants. Il a fait 2 enfants pendant la pandémie.
OK.
Puis il est allé accoucher en Nouvelle-Zélande.
Wow!
Il y a eu un vol entre le Vanuatu et la Nouvelle-Zélande où il était tout seul dans l'avion.
T'es-tu sérieux? Ouais. C'était un 737?
Non, c'était pas un 737. C'était un avion militaire, en fait, qui était venu porter pour l'hôpital, un respirateur ou tout, quand c'était la panique peut-être au début, là, genre au mois de juin 2020. Là. Puis là, il a réussi à faire qu'il puisse embarquer dedans pour aller rejoindre Rachel, qui était pour accoucher un mois et demi après. Ils ont montré beaucoup de flexibilité, nous, avec notre famille, donc on ne peut pas rien dire contre les Néo-Zélandais.
Donc, le beau-frère, c'est lui avec la camisole rouge?
Ah, là, je l'ai, je sais.
C'est sur site, là, hein, c'est ça?
Non, je suis dans l'Instagram.
Ah, OK.
Il est envoyé le 9 novembre 2022. Il y a un gars avec un chandail des Lakers tatoué. Il y a des filles. Il y a, d'après moi, t'es en arrière dans la photo, il y a des barils, puis il y a, je sais pas trop, à moins que ce soit du monde, c'est peut-être juste des touristes, finalement.
Instagram.
Mais c'est vraiment hot, les photos sont écœurantes. Wow. Ça donne le goût d'y aller un peu, Martin.
Ben, il faut venir. J'ai même de la place pour
vraiment?
Vous.
Vraiment?
C'est voyage, dans le fond, ça coûte cher, c'est l'avion pour se rendre, hein, c'est toujours pareil.
Parce combien d'avions, à peu près, ça?
C'est quoi le voyage, en fait, quand tu fais un stop à Vancouver, un stop à Sydney?
Francfort ou une affaire de même? C'est que ça, tu passes par où quand tu vas là?
Hawaii?
Le plus simple, mettons, tu fais-tu un Toronto, Francfort, Hong Kong, je ne sais pas comment ça marche. Là,
mais... Il faut faire Los Angeles, Fiji, Vanuatu.
Okay. C'est le moins cher. Le moins cher.
C'est le moins cher parce que Fiji Airways, ils ont comme une politique de prix qui est assez basse pour attirer des touristes.
Okay. OK.
Puis donc, ça, c'est le moins
cher. Passer par l'Ouest, c'est ce qui est le plus rapide
donc,
aussi?
Fiji, passer par. Oui, il faut passer par l'Ouest. Passer par Los Angeles. Il y a un vol aussi Vancouver-Fiji. Avec Fiji Airways. Mais un par semaine. Tandis que Los Angeles-Fiji, c'est un à par jour. À tous les soirs, c'est un vol de nuit, 10 heures. Il est très bien le vol en plus. Puis je veux dire, il faut. Ça va peut-être coûter 1500 entre Los Angeles, Vanuatu, aller-retour. Après, moi, les gens, s'ils veulent être économiques, ils prennent leur aéroplan ou le reste pour la portion entre Los Angeles pour venir. À Québec, c'est un peu dur. Là. C'est facile d'aller à Montréal. Los Angeles, c'est une destination qui nous manque.
Ouais. Oui, effectivement. Un vol régulier, Los Angeles, ça fait un job. Ça faisait à peu près 2000$, 2200$, puis un billet pour y aller.
Oui, aller-retour, hein.
Mais tu vas pas là pour 3 jours non plus. On est d'accord, quelqu'un qui va là une couple de semaines, d'après moi. Tant qu'il est rendu là, c'est tout ça?
Ouais, je dirais que moins. 2 semaines, ça serait. Tu devrais penser deux semaines, ouais. Mais je veux dire.
C'est mieux un mois.
Ouais, moi, je suis pas la super personne pour ça. Pour ça, cette demande-là, moi, je suis capable d'aller à une place 2 jours, puis c'est pas être loin, puis après ça,
Si tu dois revenir, tu comprends que t'es mieux de le planifier en se disant, moi, je serais plus porté, effectivement, de faire 3 semaines, 1 mois. Si je vais en Asie, tu brodes peut-être d'autres choses autour. Si t'es rendu là, tu dis, regarde, je vais aller là, t'as des connaissances, donc t'as un pied à terre, c'est le fun, mais tu dis, on va peut-être en profiter pour aller en Australie, t'es pas si loin.
Exact.
Tu compares à ici.
Mais pour le coût du billet d'avion, tu peux te dire, ouais, peut-être ça vaut la peine d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande en même temps, mais pour le temps...
Est-ce que t'es mieux d'aller en Australie avant, puis après ça, prendre un vol Australie pour chez vous, ou t'es mieux d'arriver en premier par chez vous?
Un ou l'autre, ouais. Parce qu'il y a des vols, on a 5 vols par semaine à Brisbane, puis on a 5 vols à Sydney par semaine, puis après ça, 3 à Auckland.
Une bonne flexibilité pour les voyageurs.
Oui, fait que c'est peut-être 800 aller-retour. C'est à la même distance probablement que quand tu prends Québec, Fort Lauderdale. Là, genre.
Ouais, c'est ça. Donc, puis Airbnb, si je veux avoir un beau spot, là, pas loin de... Si tu 500$ la nuit, c'est 200, ça joue dans quel
zoo à peu près de tous les prix, mais je te dirais que c'est moins cher qu'ici.
OK. Donc, tu peux te faire un voyage quand même, excluant le billet d'avion, là, mais ça, ouais. Quand tu vas dans ces places-là, du monde, ça coûte cher. Là, dire, c'est pas, ça n'a jamais été des places à 700$ le billet. Donc, tu peux te faire des vacances quand même à prix. Puis une fois que tu es là-bas, hey, on n'a pas parlé de ça encore, Jerry, puis même Gilles, puis tout le monde, on est tous de même. La bouffe, là.
Oui.
C'est quoi la bouffe? Parle-moi de la bouffe un peu, là, dans votre coin.
Ben, nous.
Il n'y a pas de poisson, je vais être surpris, là.
Ça, c'est le bon côté de notre héritage, de notre héritage français, c'est qu'on a quand même une cuisine qui est un peu plus sophistiquée, si on veut, que ce soit à Fidji. Parce que Fidji, c'est un mélange de mélanésienne puis d'Indien, en fait. Les gens ne le savent pas, mais la moitié de la population est indienne à Fidji. Tandis qu'au Vanuatu, c'est 90-95% c'est des locaux natifs mélanésiennes. Mais en fait, ça serait les mêmes que tu aurais aborigènes en Australie s'il y avait encore les natives.
Oui, t'sais? C'est ça.
C'est juste qu'en Calédonie, Nouvelle-Calédonie, tu as la moitié-moitié. Si tu veux, tu as la moitié d'Européens, la moitié de Mélanésiens. En Australie, tu as 1% de 99% d'Européens. Pour Vanuatu, ben, c'est l'inverse. Tu as 95% de natives et tu as 5% d'étrangers. Puis bon, la bouffe étrange, mais. Le poisson est excellent. On a du thon frais puis du red snapper. On appelle le poulet fish, nous. C'est comme. C'est le bœuf, en fait, qui est notre grande fierté. Puis ce que les gens
ils
reviennent puis en redemandent parce qu'en fait, on a. Les vaches vivent grass-fed à l'année longue extérieure. Okay. Puis.
On est vendu. C'est fait. On y va. On va aller faire un tour.
Puis il n'y a pas d'antibiotiques, ils sont comme naturellement bio, là, parce qu'il n'y a pas eu de maladie qui est justement là-dessus non plus. Fait que
ils n'ont pas perdu leur vache, eux autres, ils savent où ils sont.
Donc c'est des grillades, c'est beaucoup de. Surtout très très barbecue, grillades, la fois même.
Oui, tu te fais un barbecue sur le bord de la plage tout le temps.
Oui, c'est ça. C'est terrible. La plate, hein? Ah, c'est de l'eau.
Après ça, qu'est-ce qu'il y a de nourriture un peu plus spéciale? C'est qu'ils mangent aussi une grosse chauve-souris qui s'appelle Flying Fox.
Okay.
Donc, quand c'est la pandémie, puis qu'ils nous parlaient que c'était le pangolin.
Very good chicken.
Avec la chauve-souris, nous.
Flying chicken.
La chauve-souris au Vanuatu, c'est normal. Tu vas à la chasse à la chauve-souris.
Oui.
Puis tu manges ça en barbecue aussi.
Jeff est allé, il t'avait d'aller à la chasse au cochon en Floride.
Oui. Ouais, mais c'est vrai.
Ah, oui.
Moi, je suis à chasse au sanglier. Mon chum Robbie, on est sur une terre de 350 heures qu'on est à chasse. J'y vais demain soir encore.
Ouais, ils font ça au Vanuatu aussi.
Non, je suis en train. Et là, ça m'a donné le goût. Là, tu sais que moi aussi, je m'en vais sur le bord du fleuve puis j'ai comme une terre à bois alentour. Donc, je m'équipe, je vais me chercher mon permis de chasse puis je m'en vais à petite chasse.
Donc, as-tu parlé à ta blonde?
Oui, je parlais de ça.
Oui, OK, c'est bon.
Je parlais de ça, ma blonde, tout est fait.
Pas de chevreuil, là, ça va être plus du lièvre de la perdrix.
Ouais. Mais chevreuil, je vais. C'est parce que le chevreuil, je ne suis pas attiré tant que ça. J'aime pas tant ça que ça. J'aime l'orignal.
Ah, ben là, l'orignal, c'est pas battable, tant qu'à moi, non? Comme viande saignante, c'est dur à battre.
C'est vraiment, vraiment, vraiment dur à battre. Il y en a, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça pendant tout, là, mais moi, j'adore. Donc là, le Flying Fox, je regarde ça, cette affaire-là. Là. Mm. Ça se mange, ça.
Oui, il mange ça. Mais c'est un fruit bat. Ça fait juste manger. C'est végétarien, cette chauve-souris-là. Fait que ça veut juste manger des fruits et des plantes. Fait que
c'est quoi? C'est un genre de poulet, pour vrai?
C'est un genre de poulet. C'est un genre de poulet brun, là, comme la game meat un peu. Là. Puis l'autre chose qui est spectaculaire, ça s'appelle le coconut crab. C'est un crabe de terre. Donc, c'est un crabe qui ne vit pas dans la mer, mais c'est à terre. Mais il est gros, mettons, comme la table ici. Là.
Hein? Voyons.
Tabarouette.
Il peut être gros comme ça. Il y en a des plus petits, évidemment. Mais, c'est moins. De moins en moins à la mode de le manger parce que je pense que il faut qu'il y ait comme 25 ans avant de pouvoir se reproduire. Fait que quand tu en manges.
Oh, OK. Ou tu sois caché comme pauvre dans la jungle.
Tu participes à l'extinction de l'espèce quand tu manges ça.
Ouais. Ouais, ça, on est pas.
Il y a d'autres choses.
On est plus flayé un peu, mais on est quand même. On va faire attention.
C'est comme avant, ils mangeaient les tortues, mais là, ils ne mangent plus les tortues.
Et mettons, je vais te faire un exemple bien simple. Je m'en vais d'un restaurant là-bas, peu importe lequel, normal. Je prends un repas, je prends une petite bière, mettons une Corona ou une bière locale. Je m'en fous. Ça va me coûter quoi, à peu près, en canadien? Si tu dis
à part Villa. Là.
Ouais, mettons. Ça va-tu me coûter 10 piastres, mettons, un repas, une assiette là, complète avec une bière, mettons?
Ouais. Si tu vas au Thaï le midi, là, qui te fait un pas de Thaï avec ta bière, ça va te coûter ça, là, 10-12 piastres.
Canadien.
Ouais.
OK.
Bon, ouais. Non, non, c'est pas. Mais il n'y a pas de pourboire, il n'y a pas de type. Là. Y a les prix inclus, il y a une taxe okay. de 15%, mais c'est toujours inclus dans le prix. Là.
Moi, j'aime pas ça que ça soit.
Ça arrive pas en
le prix final.
Oui, c'est ça. Le prix que c'est écrit, c'est le prix que ça coûte. Puis comment ça marche, c'est les chiffres sont gros, par contre. Il faut s'habituer. Là. 1000, c'est 10. Il faut que tu enlèves 2 zéros pour pouvoir faire ouais, la computation. C'est comme au Japon, je pense, en yen. Là.
C'est en yen, c'est ça. C'est
des gros chiffres.
Dans les îles, des fois aussi, c'est de même. Là. T'as des chiffres, ça finit.
Ben, en fait, il n'y a pas de centimes, il n'y a pas de virgule, puis il n'y a pas de cents. Fait que c'est comme si tu étais tout le temps en cents. Fait que quand tu fais de la comptabilité, c'est en cents. 1000, c'est 10. Ouais. Fait que...
ça fait beaucoup de.
Tu balances à la cents.
Il y a beaucoup de zéros.
C'est ça. Mais c'était incroyable.
T'as pas l'air mal pris, Martin, t'as pas l'air mal pris dans la vie, là, mais quand même, t'es un gars de chiffres, là, donc tu sais compter. Est-ce que t'as été surpris entre les, mettons, depuis que t'es arrivé, puis je sais que ton père était malade, puis ça a brossé pas mal dans le temps des fêtes, mais j'imagine que t'as pris un peu de temps quand même pour aller manger en famille, de restaurant, ou encore aller faire l'épicerie, vous avez dû le faire. As-tu été surpris par rapport à la dernière fois que t'es venu, comment les prix ont explosé, puis comment c'est devenu très, très, très cher ici?
Ouais, c'est sûr que même dans les restaurants là, tu t'en vas chercher ton cabaret toi-même au Saint-Hubert là, à Montmagny là, puis là t'es 5 là, et ça te coûte 150 là, pour manger.
Ah oui, tu fais le saut pareil, c'est vrai pareil.
Mais c'est ça que ça fait, c'est ça. Ouais. Mais
ben, c'est capoté ça.
Ouais.
150$ pour un Saint-Hubert Express.
Mais en même temps, ouais, c'est ça. Aussi, quand on est arrivé, le premier stop qu'on a fait le 21, je pense, on est arrivé pour 3 semaines, fait qu'on est arrêté au Costco à Samuel.
Ouais. Oui.
Mais là, je veux dire, tu t'économises, mais quand tu sors avec deux paniers, là, ça...
500-600 plus, hein? T'es plus à 500 qu'à 200, là.
Non, t'es plus à 2000, tes deux paniers, là.
Ah, okay. Oui, c'est ça.
Tu sors avec deux paniers pleins. C'est sûr qu'on était 5, on accueille 15 personnes qui vont venir, tu prépares Noël, t'achètes les speakers Bose. Il y avait de l'équipement un peu là-dedans, mais quand même, là. Mais... Je veux dire, ça file pareil. Là. C'est un panier derrière l'autre. Là. Tu regardes sortir. Là.
Seigneur, oui.
Je veux dire, d'un côté, les choses semblent coûter cher. Puis de l'autre, il y a du monde qui a de l'argent. Il y a du cash liquide dans l'économie. Là. Ça tourne.
Ou il y a du crédit qui est accessible. Les deux. Moi, je dis que c'est les deux. Il y a de l'argent, effectivement. Il y a plus qu'avant. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ont eu de l'argent de leurs parents. Tu sais, on a beaucoup, Jeff, on a beaucoup chialé contre les baby boomers. Il y a une gang de baby boomers, soit qui sont décédés, parce que moi, j'ai 62. Je suis d'un dernier, je suis d'un plus jeune baby boomer. Il y en a qui ont laissé de l'argent beaucoup parce qu'ils ont passé leur vie. Ils ont passé leur vie économisée. On a des parents qui ont payé leur maison. Fait que ça, c'est des gens qui meurent et qui laissent des 7, 8, 900 000 à leurs enfants. Fait que tu sais, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même une transmission qui est bien plus grande qu'avant. Des générations d'avant. Fait que tu sais, oui, ça, mais par contre.
Puis il y a beaucoup de. Tu sais, le veut pas la l'acceptation.
Accessibilité.
L'accessibilité, exactement, au crédit avec les cartes, si bien ça, on consomme... Tu sais, si les gens payaient avec des 20$, je suis pas sûr que payer un panier d'épicerie comme on envoie chez Costco à 750$, c'est le frais.
Jeff, on est à 185%. Chaque pièce que les Canadiens gagnent, ils en doivent 185. C'est ça, la réalité. Ça n'a jamais été au même. Ouais. Il y a ça d'une part, mais je reprends ton 2000 de Costco avec deux paniers. Si tu le divises en repas que tu as fait, tu vas t'apercevoir que ça coûte cher au restaurant.
Ouais.
Quand tu fais le calcul, Jeff, tu fais le saut, là. Parce que tu fais du millage. Moi, je vais acheter, mettons, des poitrines de poulet, je n'ai acheté tant spécial, ça m'a coûté 15$. Mais j'avais à peu près 8 poitrines. Avec ça, tu fais du stock pareil, bien à 15$. Fait que tu sais, au Saint-Hubert, tu parlais de ton Saint-Hubert ou à d'autres coques, peu importe les autres. Je trouvais, tu sais, tu fais le saut pareil, parce que tu achètes des poitrines, tu es habitué de payer 4-5$, t'es rendu à 15. Mais 15 pour 8 poitrines, tu fais des repas pas mal. Non, écoute, tout coûte plus cher, c'est une évidence. Là.
Mais, est-ce que ton père, ça va mieux, Martin?
Ben là, on pense que oui. Là, on se croise les doigts. J'écoutais en m'en venant ce matin en auto l'épisode d'hier, en fait. Puis là, j'ai compris que ta mère, en fait, elle a eu la même opération que mon père. Il a eu a changé la valve. Là.
Oui.
Donc,
lui, ça n'a pas été bien. En tout cas, la mienne n'a pas fait encore. Là. Elle m'a envoyé des papiers hier, elle m'a montré comment ça allait se passer, mais... Ça s'en vient d'ici une semaine, donc il peut y avoir des complications pendant que ça se passe.
Non, ben, là, moi, c'est sa première valve. Là. C'est pas changé.
Okay, c'est la première.
Il y a 75, puis ils ont déterminé depuis 6 mois là, qu'ils font des tests, qu'il était, comment dire, il a toujours été en santé, il n'est pas malade, son rein, son foie, tout va bien, si tu veux. Là, fait que là, ils te font toutes sortes de trucs, les dents, tout, pour faire cette opération-là. Puis ils ont déterminé qu'en faisant ça, ils pouvaient rallonger sa vie de 15 ans, mettons. Parce que sinon, c'est l'épée de Damoclès. Là. Tu peux avoir un AVC, un ACV, en tout cas, comme ça. Donc, ils l'ont ouvert le 16 décembre, puis ils ont changé la valve. Là. Ils ont mis la valve biologique. Puis là, c'était à l'hôpital Laval, ça a bien été.
C'est la place.
Le super médecin, tout est correct. Mmh. Puis là, ils le renvoient chez eux peut-être 5 jours après. Puis là, on est quoi, le 21, là, ça, tout est correct, mais le 25 décembre à 2h du matin, tu sais, ma mère m'appelle, on est à 10 maisons à peu près, puis là, elle dit, ton père, ça va pas, viens-t'en, puis là, je suis arrivé chez nous, puis, chez eux, en tout cas, vu que j'étais à 10 maisons avec Madame Vanuatu, puis là, mon père, il était par terre, tu sais, puis il a un genre de diarrhée de sang, tu sais, il avait une hémorragie interne, en fait, puis là, on l'a amené à l'hôpital, l'ambulance, là, quand tu rentres avec l'ambulance, tu t'attends pas à l'urgence, là, c'est
très stressant, tabarouette, par exemple.
Oh, oui, c'est très, très, ça fut très, très intense, puis là... C'est ça. Là, c'est à l'hôpital à Montmagny. À l'hôpital à Montmagny...
Il l'amène ailleurs, j'imagine?
Ils ont commencé par le transfuser et donner plus de sang parce que son hémoglobine était tombé à 70. Tu sais. Puis là, si ça reste trop, tu n'as plus d'air dans tes muscles, dans ton cerveau. En tout cas, c'est comme un peu c'est l'urgence. Tu sais. Puis là, après ça, ils ont fait 2 ans... Ça a fini par... J'ai eu beaucoup de frustration à ce moment-là au départ parce qu'en fait, c'est impossible d'avoir le dossier, qu'est-ce qui s'est passé à l'autre hôpital, tu sais.
Ah oui,
c'est ça. Puis là, tu essaies de... Puis là, tu peux pas, faut que tu sois là toute la journée, tu sais, pour que le médecin, quand il va passer le 5 minutes, tu sois là pour aussi entendre ce qu'il va dire. Fait que tu passes ton temps à attendre, mais parce que t'as pas de rendez-vous. Puis là, t'es vraiment un patient, t'es pas un client. Hein.
T'es patient.
Le mot, c'est...
ça, c'est nos patentes à nous autres.
Puis là, ils ont fait une colonoscopie, parce qu'au départ, ils pensaient que ça devait venir de l'intestin, mais c'était un mauvais diagnostic, si on veut. Fait que là, il a fallu qu'ils fassent après ça la gastroscopie. Ils ont fait 2 gastroscopies parce que la première, je sais pas, ils n'ont pas vu un truc. Mm-hmm. Peu importe. Mais moi, je pense que là, c'était une autre génération. Là. Moi, après ça, t'es en chambre, t'es 4 dans une chambre d'hôpital. Ça n'a aucun sens avec une toilette. Moi, quand je vais être rendu à l'hôpital, ça ne pourra pas se passer de même. Je ne l'accepterai pas. Là. Moi, je peux pas me penser que tout le monde va dans cette...
4 lits d'une chambre?
Ouais.
Avec 2-3 petits rideaux, là.
Avec une toilette. T'sais. Mais pas juste ça, c'est... Moi, si tu me mets une caméra, là, puis tu m'arrêtes, là, la vidéo, tu vas l'enregistrer. Là. Je vais partir avec la vidéo. T'sais. Je veux dire, moi, je fais du cloud-based accounting. Je fais tout est cloud. Toutes mes photos sont cloud. T'sais. Mais là, ils font des tests avec des caméras, puis ils prennent des photos noir et blanc.
Ils n'ont pas le film.
Puis là, tu veux avoir accès au dossier, puis ils disent non, il faut que tu demandes aux archives. C'est confidentiel. Là, tu dis, mais c'est mon père qui demande. C'est confidentiel pour qui? En fait, c'est confidentiel pour l'hôpital. Ils veulent pas te... Là, tu dis, je vais prendre des photos du dossier avec mon appareil, tu sais, parce que moi, je suis habitué de demander...
Oh non, on peut pas.
Quand tu fais en business, moi, je suis habitué de demander un deuxième avis. Tu as un deuxième fiscaliste, un deuxième comptable. Tu demandes un avis à quelqu'un d'autre, tu sais, tu valides tes trucs. Tu fais pas confiance aveuglément à le premier docteur que tu vois parce qu'il est docteur, tu sais, je veux dire, c'est... Et on le sait dans la vie, là. On est assez vieux pour comprendre que, je veux dire, il y en a qui connaissent plus de choses que d'autres, des meilleurs que d'autres, puis il y a des journées meilleures que d'autres, mais ça dépend de ça. En tout cas,
la question d'Omienne, puisqu'il y a toujours une question d'Omienne, on est à Radio Pirate quand même. Ici, si ton père, il arrive la même chose à Vanuatu, il se passe quoi?
Alors, ben là, à Vanuatu, il n'y a pas la...
À part Villa, là. Ouais. C'est la même affaire. Il
faut qu'il aille ailleurs.
Il est couché sur le plancher, là, puis il pisse le sang.
Non, ben là, la même situation ne pourrait pas arriver parce qu'il n'aurait pas eu la première opération. S'il habitait au Vanuatu, il aurait été faire cette opération-là en Australie.
Là, je comprends.
Mais,
bon, oui.
mais s'il arrive une urgence au Vanuatu, mettons, là, j'ai un accident d'auto, là. Moi, mon assurance, elle me met dans un avion, elle vassane, puis elle m'envoie au plus proche en Nouvelle-Calédonie, qui est à 1 heure, ou elle m'envoie en Australie à 3 heures. Okay.
Ton assurance,
pour un gros truc. Tu sais. C'est un petit truc, puis il me stabilise. Ma femme, elle s'est cassée à un moment donné, elle a juste eu une mauvaise chute, puis elle s'est comme fracturée, cassée le bas de la jambe. Là, okay. Le tibia, tu sais, à 2 places. C'était quand même assez... Ils l'ont stabilisé, si tu veux, à l'hôpital à Port-Villa. Puis le prochain vol commercial qui est parti, ils l'ont lifté dans l'avion. Ça, c'est il y a une dizaine d'années. Puis on est arrivé à l'hôpital en Australie, l'hôpital de l'assurance, l'hôpital privé. Là, c'était comme à l'hôtel. Je veux dire, c'est un autre monde.
C'est un autre monde, c'est un autre monde.
Tu sais, je veux dire. Mais je peux pas comprendre comment ça se fait que, dans la vie, justement, tu as différents types d'hôtels, puis tu choisis, tu sais, puis tu décides ton budget, puis tu décides à quel moment tu payes plus ou moins. Comment est-ce qu'à l'hôpital, tu pourrais pas avoir aucun choix?
Ce qui est un peu ridicule, c'est que si tu fouilles, ben, c'est pas toujours le cas, ce que je veux dire, mais souvent, c'est le cas. Si tu fouilles, c'est souvent une mesure qui est plus de protection contre les assurances ou les poursuites que pour servir le patient ou le client, comme on n'est pas. Souvent, c'est ça. Ils veulent pas, au cas qu'il y ait de quoi qui a été mal fait, au cas que, fait que s'ils mettent ça de même, que toi, tu challenges.
Il y a du no-fault. Oh,
ouais, ils veulent je sais, Jeff, je suis d'accord avec toi. Ils veulent se protéger. Ici, on a le no-fault, c'est sûr. Mais quand même, souvent, ils veulent se protéger. Ils veulent les chasses garder. Là, tu veux pas mettre ça dans les mains. Puis, regarde, prends juste les. Si on est honnête, je fais juste déborder un petit peu, mais pourquoi c'est si compliqué, les infirmières ici qui sont. Spécialisés, donc les super infirmières, tout ça, parce qu'il y a des chasses gardées. Pourquoi les médecins ne veulent pas que les chiroutes aident en période de grande détresse, quand il y avait de la détresse? Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit considéré. Tu comprends? Quand tu protèges, ben, tu te protèges, mais est-ce que tu protèges ton patient, c'est ça? Quand tu demandes quelque chose comme ça, ça devrait être valide,
tu devrais
le donner.
Il n'y a pas de système parfait, puis je suis bien content que ce ne soit pas moi qui soit en contrôle de ça, puis qui choisisse. Mais pour moi, c'est qu'on ait l'objectif d'avoir une assurance collective, c'est-à-dire qui couvre tout le monde, puis qu'on ne laisse personne derrière, ça, c'est super, c'est parfait. Mais on n'a pas besoin de posséder les hôpitaux, puis d'avoir les employés, le gouvernement, les médecins, puis tout le monde. On n'a pas besoin d'opérer l'hôpital pour avoir l'assurance collective. Là. Il faut que les hôpitaux soient opérés par des professionnels, pas par un gouvernement. Ça ne peut pas marcher, un gouvernement. Ça n'opère pas bien les choses.
On pourrait le dire de tellement de choses. C'est la SAQ. Est-ce qu'on peut contrôler ce qui rentre, puis mais est-ce qu'on est obligé de le vendre sur la rue? Pas obligé.
La SAQ, pour moi, c'est un immense problème ici. C'est un immense problème, pas dans le sens où. C'est dans le sens de mentalité.
Il faut qu'on franchisse
ça si on veut aller à d'autres choses.
Ouais.
Il faut que les gens. Que tout le monde collectivement dise ça n'a aucun sens qu'on collective vise la distribution du retail. Ça n'a aucun sens.
Non, il n'y a pas d'affaire dans la rue. Le gouvernement n'a pas besoin d'être dans la rue pour vendre la boisson.
Non, mais ils ne sont pas dans la rue pour vendre des cigarettes ou le gaz, puis ils font les taxes pareil.
Tu peux faire le contrôle pareil.
Mais comme tu dis, pour le Québécois, le step de l'hôpital, changer notre mentalité d'hôpital pour le domien, ça va être beaucoup. Faut que tu commences par la SAQ. Faut que tu commences par la SAC. Puis quand il va avoir compris pour la SAC, il va comprendre d'autres choses.
C'est ça. Ouais, mais exact. T'as peu. Wow. Faut améliorer les affaires vite, là. Moi, j'ai 55 ans. Moi, tantôt, je vais être malade, là. Moi, je peux pas aller mourir.
Tu seras pas patient à ce point-là, Jeff?
Non. Regarde, j'ai vu du monde dans le temps des fêtes qui ont compris, OK? Puis parce qu'il y a eu, il y a eu toute une histoire au Québec, c'est on veut pas avoir le système américain. Ah ouais? Tant et aussi longtemps que tu l'as pas essayé, que t'as pas été malade, tu dis une affaire de même. Mais il y a un Québécois qui m'a écrit et qui était un type d'Aumien, que lui, il était le système de santé québécois, etc. Puis là, il était très malade ici. Il était soigné comme s'il était dans comme tu disais, Martin, dans un hôtel 5 étoiles, des services incroyables. Il est sorti de là, il n'en venait pas, OK? Et là, la conclusion de son message qu'il m'a écrit, il dit, finalement, je me suis trompé. Ce que ça prend, c'est l'assurance pour tout le monde et les services comme au Sud. Ben oui, mais c'est ça qu'on veut. J'ai dit, sont pas meilleurs les médecins ici, les infirmières sont pas meilleures ici, même l'administratrice de l'hôpital est pas meilleure. On est tous capables de faire pareil, mais le point, la différence, c'est que les services sont donnés par le gouvernement, puis ils réussiront pas. Regarde, il l'a dit, là, comment ça s'appelle, Dubé, il a dit, ouais, là, l'urgence, je suis tanné, là, je m'occupe pas de ça, là. Moi, je regarde l'affaire dans son ensemble, là. Il veut plus être relié à l'échec de l'urgence.
Non, mais... Mon père,
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas capables de rien faire. Ils sont pas capables de rien faire avec ça. Oublie ça.
Quand ils ont changé sa valve à l'hôpital Laval, là, je sais pas comment ça a coûté, mettons, mais ils savent pas, eux autres non plus. Personne ne le sait. C'est ça qui est fou. Si j'étais sorti de là avec une facture qui dit 75 000 piastres en bas parce qu'il a été ici de 4 jours, ça, chaque jour c'est ça, tant de cathéters, tant de solutés,
les spécialistes,
tant de trucs,
les heures,
telle opération, tel truc, OK, j'aurais sorti avec une facture, il aurait dit, mais c'est l'État qui paye, monsieur, parce que c'est l'assurance collective, pas de problème. Mais quand je serais rentré à l'autre hôpital, à Montmagny, j'aurais toujours bien eu un reçu de qu'est-ce qui s'est passé à l'autre. Ouais. Je veux dire, là, j'arrive à l'autre, puis là, on a juste du oral. Je me rappelle de
ça.
Ouais,
t'es pas
un
spécialiste,
toi. Ouais.
T'es pas spécialiste, t'auras peut-être pas les bons termes.
Il me semble qu'ils ont donné un antidouleur à ce moment-là parce que l'autre, il a fait du délirium avec l'autre. Fait que là, ils ont donné l'autre. Puis là, ça doit être ça qui a provoqué l'ulcère. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il y a eu un ulcère d'estomac qui n'a jamais eu d'ulcère de toute sa vie. Puis là, maintenant, on sait que c'est probablement le stress de l'opération et les anti-inflammatoires qu'ils ont donné.
C'est ça.
Okay, ça, ça a créé l'ulcère. Puis là, en même temps, il y a les médicaments qui sont anticoagulants. Fait que là, ça crée une hémorragie. T'sais. Puis là, après ça, ben, ça aurait pu être prévu s'il y avait eu peut-être un médicament avant pour l'estomac. Mais bon, c'est ça. Je veux dire, je pense pas que c'est la faute à personne ce qui est arrivé. Là. Puis après ça, ben, ce qui est malheureux, c'est qu'ils l'ont patché, si tu veux, à Montmagny. Puis ils l'ont clippé son ulcère. Puis ils l'ont renvoyé à la maison le 31 décembre. Puis après ça, le 5 janvier, ben là, encore, là, ça a été à 10h le soir au lieu d'être 2h du matin. Ma mère qui me rappelle. Là, il avait mieux prévenu parce que là, il avait été capable de plus rapidement voir que le sang coulait de bord en bord. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ça sort rouge comme ça, ça sort pas digéré. Là,
wow.
C'est que ça coule. Mmh. Fait que là, ils ont rentré à l'hôpital. Wow. Là, à Montmagny, ce coup-là, ils ont dit, là, on a déjà fait deux gastroscopies. On en a fait un 3, en fait. Puis là, on l'a clippé, on l'a cautérisé, on a tout fait ça. Mais il était à 60 là, d'hémoglobine, puis ils ne réussissaient pas à le remonter. Je pense qu'ils ont donné 8 sacs ou 6 sacs de sang. Tu sais. Puis là, ils ont dit, là, on l'envoie à
Québec.
À Lévis. Fait que là, l'ambulance l'a amené à Lévis pour, s'il y avait une autre étape à faire, là, ça prenait d'autres types de médecins pour aller couper la veine avant qu'elle rentre dans l'estomac. En tout cas, bon. Là, ça n'a pas eu besoin de tout ça pour l'instant. Là, le gastro-entérologue à Lévis a dit non, hein, ça a l'air d'être bon. Il a fait une autre gastroscopie. Il est resté là du 5, jeudi le 5 au lundi le 9. Fait que là, un autre 4 jours, là, c'est là les 4 personnes dans la chambre encore. Puis là, il a pogné la COVID à l'hôpital la première fois aussi. Oui, tu sais. Puis là, ma mère, qui a 75 aussi, qui venait le voir, a pogné la COVID à ce moment-là. Ils l'avaient jamais eu. Ils se sont vaccinés 5 fois, ils l'avaient jamais eu jusqu'à maintenant. Tu sais. Là, j'ai mes 2 parents avec la COVID.
À l'hôpital, ils ont pogné ça à l'hôpital.
Oui. Ben oui. Ils n'ont jamais eu ça depuis le début. Ils ont pogné ça à l'hôpital, c'est ça. Mais là, à l'hôpital, les 4 dans la chambre, ils mettent 4 COVID ensemble dans la chambre. Là.
Ah.
Mm-hmm. Ah, oui. Là, ça tousse.
Penses-tu que les employés, ils ont beau avoir des habits, là, les employés qui rentrent là, in and out, tout le monde a COVID dans la chambre. Qu'est-ce que tu penses qui arrive au bout du temps? Tu vas en manquer des employés qui sont malades.
Pour te protéger, tu te mets une jaquette en papier.
Non, mais
ben oui.
Non, non, mais on sait bien que c'est pas un mur, là. D'accord que c'est pas un mur, ça traverse. Ouais, pas sorti de l'auberge, mon Jeff.
Ben, c'est frustrant, c'est parce que...
Ouais.
Tu sais, nous autres, on s'en va vers là. Là, tu sais, on paye une assurance toute notre vie. De temps en temps, on va se casser un bras, il va arriver peut-être quelque chose. Nos enfants vont avoir de quoi vite. La réalité, c'est que le montant qu'on dépense de ce qu'on a investi dans ce système-là, ça va être après 65 ans.
Ben oui, tu sais, Jeff, t'as-tu embourbé les hôpitaux, toi, depuis 40 ans?
Non, je n'ai vraiment pas embourbé. Non. C'était des affaires bien, bien rapides quand je suis allé. Sauf que je suis un peu comme Martin, tu sais, je me dis... moi, je veux pas me faire soigner dans ce système-là. C'est drôle de parler. Je n'ai parlé avec mes enfants dans le temps des fêtes. Parce qu'à un moment donné, on a regardé, puis il y a quelques affaires qu'on pouvait faire, puis tout. Puis là, moi, j'aurais expliqué que si. Tu sais, il y en a qui disent moi, je veux déménager pour telle affaire. Moi, j'aimerais ça vivre ailleurs pendant peut-être telle chose. Moi, une des choses qui me préoccupe, je n'ai pas peur de mourir d'une maladie longue, là, c'est pas ça, là. Mais en vieillissant, s'il y a une chose qui me préoccupe, c'est que je regarde ça puis je me dis, est-ce que je veux vieillir dans cette place-là? Pourtant, là, regarde, on vient de se trouver une place sur le bord du fleuve. Moi, je suis capable de me mettre des écouteurs puis fermer les yeux. Puis c'est des affaires qui m'énervent. Je suis capable de m'isoler d'une manière que vous pouvez même pas savoir comment. Sauf que la vie nous rattrape. Puis à un moment donné, on peut tomber malade. Puis moi, je veux pas tomber malade dans cette place-là. Cette place-là me fait peur. C'est même plus drôle. On dit, on a jasé pendant 20, 25 ans, 30 ans, là, puis essayer de brosser la patente. C'était du placotage, mais en vieillissant, on s'en va vers
la
là.
La réalité, hein?
Moi, j'ai peur de tout ça. J'ai peur de vieillir là. J'ai pas peur de vieillir à cause des taxes. J'ai pas peur de vieillir à cause des SAQ. J'ai pas peur de vieillir de toutes les affaires qui m'énervent. Ça m'énerve un peu. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que, mais que je sois malade, je veux pas être soigné là-dedans. Ça n'a aucun sens. C'est un stress.
Comment tu payes pour ton assurance chez vous, pour ta famille?
En Floride?
Non, à Vanuatu.
À Vanuatu, excuse.
Moi, ça ne me coûte pas très cher. Là, ça me doit me coûter même pas 5 000 par année. Là.
OK. Mais une partie, c'est ton employeur qui paye, l'autre partie, c'est toi. Comment ça fonctionne?
Ouais. Non, c'est moi qui paye.
C'est toi qui paye au complet.
Mais Je me suis mis un déductible de 5 000 par maladie.
Okay? Je comprends.
Fait que moi, je paye pour s'il y a quelque chose de grave qui arrive, tu sais. Mais tout le reste, je veux pas...
OK, les petites affaires...
Moi, je vais chez le docteur, je paye, puis j'ai un rendez-vous tout de suite, puis je paye. Au Vanuatu, j'ai pas de problème là, d'aller chez le docteur. Là. Je vais chez le docteur dans 15 minutes après que je veux voir le docteur, docteur, tu sais.
C'est quand même spécial.
Ton genre de déductible, ton espèce d'assurance que tu prends, c'est pour
les grosses affaires.
Les grosses affaires.
Non, mais c'est que... Les gens, ils ont peur ils veulent pas dépenser parce qu'ils se disent, si j'ai payé mes impôts, je vais pas dépenser. T'sais. Mais pour moi, c'est pas un bon calcul. C'est se faire mal à soi-même. On s'en fout de ça. Faut que tu dépenses ou ça sert à rien d'avoir de l'argent si tu ne dépenses pas. Il faut que tu dépenses où tu as envie de la dépenser. Ça peut être t'acheter une nouvelle auto, mais ça peut être aussi ta santé.
Oui.
Tu as le droit de payer et d'avoir le. Puis je me rappelle, il me semble, quand t'es jeune, là, quand nos politiciens étaient malades, ils allaient où, là? Ils étaient Bourassa, ils allaient aux States.
Ils allaient aux États-Unis.
Tu vois où ça marche, là, tu fais tes choix. De toute façon, c'était une affaire que j'ai découvert, je sais pas si je vais me lancer là-dedans, mais c'est une affaire que j'ai découvert cette année, là. C'est un mensonge quand ils nous disent que l'argent qu'ils prennent des impôts, c'est pour payer l'hôpital, là. Vous savez, ça, il n'y a pas besoin de prendre l'argent pour payer l'hôpital. S'ils prennent l'argent au monde, c'est pour justement arrêter l'inflation. Le gouvernement, il fait deux choses. Il crée l'argent, puis il détruit l'argent. Okay? Fait quand il fait des impôts et des taxes pour détruire de l'argent, c'est pour enlever de la masse monétaire sur le marché puis la détruire. Quand il crée de l'argent, c'est pour payer les choses qu'il a décidé qu'il allait payer, les hôpitaux, la santé, l'éducation. Il n'y a pas besoin. Bon, on l'a vu avec la pandémie, il imprime des chèques. Il imprime une scène dans le coffre, puis il écrit 1 milliard dessus, il met ça dans le coffre, okay? Dans la centrale, à la Banque centrale, puis après ça, il envoie des chèques à tout le monde au Canada. OK? Puis là, ça va dans toutes les banques. Puis il n'y a pas besoin de notre argent. Même s'il y avait le double d'argent, il n'y en aurait pas le double d'hôpitaux. La vérité, c'est le nombre de médecins que tu as, puis le nombre d'infirmières, puis le nombre de buildings que tu as.
Facteur humain,
ça, même si tu avais plus d'argent, elle ne serait pas plus belle, ma chambre. Là. Il faudrait qu'il y ait du monde qui la construise. Puis s'il n'y a pas personne, parce qu'on est en période de pénurie de main-d'œuvre, ben il n'y a pas personne pour la faire.
Elle ne changera pas.
C'est ça la réalité. L'argent, c'est un. Il faut changer. Ils nous ont enseigné beaucoup, beaucoup que c'est selon l'argent que tu collectes. T'sais, c'est comme si c'était la première étape que s'il allait pouvoir dépenser. T'sais, mais c'est pas ça. Ils dépensent en premier, puis après, ils ralentissent. Ils te mettent une bride comme pour te ralentir la vanne sur l'autoroute. Puis une façon de faire, ben, c'est t'enlever un peu d'argent à Gilles, Jeff, enlever de l'argent, puis dire tu vas arrêter, toi, là, d'aller au restaurant, là, parce que là, tu fais tourner trop le truc. Là. Fait que ça n'a rien à voir avec l'hôpital, l'argent qu'ils nous collectent.
Ben non, c'est sûr, regarde. Parce que ça, c'est encore toutes des phrases creuses qu'on utilise. Pour...
Oui.
Puis ça met le couvercle sur le plat. T'sais, une fois que tu essaies d'aller plus loin dans la discussion, ils ont juste à sortir ça, puis la discussion se termine sur le champ. Donc ça, c'est magique comme phrase qu'on a pré-mâchée, qui existe depuis qu'on est au monde.
Ah oui, c'est... Puis c'est comme s'ils te donnaient, mettons, 2 bouteilles de piquettes par semaine, le gouvernement, puis tu disais, j'ai payé avec mes impôts, fait que c'est ça que je bois, tu sais, c'est ça que je vais prendre. Tu sais, tu te permettais pas d'aller en acheter un meilleur, tu sais, mais à un moment donné, si c'est ça que t'aimes, tu laisses faire ce qu'ils te donnent, ça vaut rien. Il faut aller en acheter des meilleurs. C'est pour ça qu'ils commencent à avoir des cliniques privées un peu, puis ils commencent à avoir du monde. Puis c'est bon parce que c'est comme les écoles privées, ça va relever le niveau, ils n'auront pas le choix de suivre à un moment donné.
Je m'en allais là justement quand tu dis ce que je veux faire de mon argent, je veux m'acheter une auto, je veux m'acheter un chalet, peu importe ce que je veux m'acheter. Si je veux m'acheter une clinique, un rendez-vous rapide dans une clinique privée, d'ailleurs, ça c'est le plus grand mensonge, on sait qu'il y en a, là. Arrêtez là, les cliniques privées, je connais un propriétaire d'une clinique privée à Place de la Cité, je nommerai pas, mais il n'y en a pas 15, comprends-tu Jeff? Il y a des salles d'urgence, puis des salles d'opération là-bas, ça marche à peine à la planche, puis c'est le gouvernement le client, le gouvernement est débordé, il dit il y aura pas de privé, mais officiellement à cause des syndicats, à cause d'une société plus nationaliste puis égalitaire, on dit qu'il n'y en a pas, mais c'est faux! Il y en a du privé, c'est juste qu'on ne l'assume pas. Moi, j'ai eu une colonoscopie. Écoute, c'est pas de ton. T'as ton disque. J'ai mon disque
dur.
Tu l'as,
ton disque?
J'ai le disque dur. Bon. C'est la seule affaire qui était dure, mais en tout cas, le disque...
T'as-tu ta cassette?
Ah bon, oui, j'ai ma cassette VHS. Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça fait longtemps que ça existe, là. Tu parles d'un mensonge. Pourquoi? Puis après, tu sais, c'est quoi la honte de dire il y a un système, puis ceux qui vont injecter de l'argent là-dedans, ils vont injecter comme quelqu'un qui est dans une autre économie, dans une autre activité économique, comme si c'était la honte. Que c'était hideux de dire « Hey, on travaille contre le... » Non, on se rend compte que le système public n'est pas capable de pouvoir... Puis
On est dans l'envers aussi, parce que j'étais dans l'hôpital avec quatre dans la chambre, puis là, je pensais là, ça, l'histoire de hockey, puis là, j'étais là, il me semble, là, ils ont fait « j'ai ma place pour avoir mon siège », mais je peux-tu avoir « j'ai ma chambre », tu sais, je veux dire,
on lance ça, puis, j'ai ma chambre.
Tu sais, je veux dire, moi, quand je vais être malade…
Femme brillante, on achète deux.
Tu comprends, l'hôpital, ils te branchent de partout, là, ils te mettent une sonde là, pour pisser, là. Tu veux avoir quelqu'un là, que si ça va mal, qui est imputable, là, tu veux avoir quelqu'un que tu vas être capable d'appeler après, tu sais, pour le service après-vente. Tu veux pas être juste genre.
En ça... passant, j'ai ma place. Tous ceux comme moi, les caves qui ont mis 5 000 ou 10 000, là, ils l'ont jamais revu. Je peux t'annoncer que j'ai rien. J'ai même pas une petite plaque de grosse de même en chocolat, là, rien.
OK, tu fais partie de ceux-là, toi.
Ah ouais, ben oui, absolument, Jeff, j'ai ma place. Ben oui.
T'es tombé dans l'émotion.
Mais c'est une émotion sacrée.
Non, mais c'est vrai.
Ben oui, absolument. Ben oui. C'était pas réaliste.
C'est avec ça qu'ils ont joué.
C'était pas logique, là. Puis, quand Québécois est rentré là-dedans, il a, OK, bye, on a fait un X là-dessus.
Mais quand les Nordiques vont venir, tu vas avoir ta place.
Non, je pense que je vais être en haut. Après, je vais être. Si c'est dans 30, 40 ans, peut-être avec Jeff à jouer aux cartes en haut, là. Ça se peut.
Ça va être probablement.
Ça se peut dans 40 ans, c'est possible.
Hey, c'était le fun, Martin.
Un beau petit 10 minutes ça, que t'as fait là?
Oui, un petit 10.
Super. Non, bon, ça me fait plaisir. Moi, je vous écoute à l'autre bout du monde. Vous êtes, c'est comme. Vous,
je sais bien qu'on
se connaît pas, mais c'est comme si. Pour moi, c'est comme si je vous connaissais, vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'heures. Je n'écoute pas toutes les heures parce que j'ai pas tout le temps. Souvent, je m'endors en vous écoutant. Mais pareil,
merci,
vous faites, vous, c'est spécial comment c'est de la proximité, vous faites partie de puis vous me connectez avec d'où je viens, puis pour moi, c'est comme, ça fait partie de mon équilibre, tu sais, puis je vous remercie pour d'être là, puis j'espère que vous allez être là tout le temps.
Les moyens technologiques, c'est vrai que pour un gars comme toi qui est expat, là, qui est à l'étranger, tous les messengers de ce monde, les Zoom, qu'on le veuille ou non, tu sais, amener la mobilité, c'est-à-dire le visage puis le vidéo, c'est incroyable. Pour tous ceux à qui j'en ai parlé, qui sont allés, mon frère vit en Allemagne, tout ça, pour les petits-enfants, les enfants, c'est incroyable comment ça rend plus doux, heureux, plus agréable d'être à l'étranger sans pouvoir revenir. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais tu sais, Jeff, il y a 20 ans, là, on a fait de la radio, puis quand quelqu'un nous disait, hey, ton téléphone, tu vas prendre ton téléphone, tu vas avoir une image, on se disait, prends une gorgée, là, t'as pas de bon sens. On le croyait pas, l'évolution.
Ouais.
Pour vous, là, c'est un des éléments intéressants de la technologie, à mon avis. La proximité par le vidéo.
Ouais,
mais pas très cher non plus.
Mais c'est pas comme en personne.
Pareil,
moi, je prédis que... On revient avec avant. Là. Il va y avoir des vols en avion. Ça va pas juste être des rencontres meet. Pis,
ouais.
Il faut que tu vois
on
les
va
personnes.
On va venir au bureau, autrement dit.
Il faut que tu les touches. T'sais. Je veux dire, je peux faire ce call-là au téléphone.
Ouais. Moi, je suis d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est un apaisement. Ça veut pas dire que c'est une...
Ouais.
D'ailleurs, pour le travail, moi, je sais pas si vous voyez comme moi, mais la formule... 4 jours, 5 jours à la maison, puis personne au bureau, je crois pas à ça.
Non, non.
Ça va virer. Je te dis pas qu'il y aura pas une journée ou deux. Moi, je pense que ça va être une journée ou deux, peut-être libre pour certaines entreprises. C'est une compagnie d'assurance. C'est
plus... Ben, le gars, je le disais tantôt, le gars de Disney vient de Disney vient de le dire aux employés.
Oui.
Là. Il a dit, c'est 4 jours, une journée à la maison, 4 jours au bureau. C'est l'histoire du travail à distance. D'abord, comme je disais en début de podcast à Jerry puis à Mr. White, c'est une grande injustice parce que c'est juste il y a juste un type de job X. Puis les jobs les moins payés puis les plus durs, les gens sont obligés de continuer à faire comme si il n'était rien arrivé.
Compagnie d'assurance, ça se
fait
bien.
Faire un Big Mac à distance,
non, puis policier, tu ne peux pas être policier à distance. Là.
Non.
Mais par contre, compagnie d'assurance à Québec, il y a 20 000 employés. La plupart peuvent travailler à distance. Gouvernement, tous les services administratifs, la plupart peuvent travailler à distance. Mais l'autre affaire, si tu as une entreprise, tu veux le spirit de ton entreprise, tu veux le transmettre, c'est pas aussi facile. Non, en tout cas, regarde, c'est comme toute chose, d'après moi, Jeff, on est allé d'un bout complètement à l'autre bout, 100% en ligne, puis là, on voit bien qu'il va y avoir un retournement, là, un équilibrage.
Oh, ouais. Là, c'est sûr que voir un notaire pour finaliser l'achat d'un terrain, j'ai pas besoin d'aller faire 45 minutes de char dans le trafic pour finaliser
un terrain. Envoie-moi les papiers, moi,
lire,
c'est ça.
Oui, mais rencontre d'affaires, rencontre, tu sais, voir le client... Ben, moi, j'ai jamais été très, très zoom. Toutes les histoires d'images, ça m'énerve, un peu comme le téléphone. J'aime pas nécessairement ça. Si je suis obligé pour une patente de même qui va m'éviter de faire du char pendant aller-retour 1h30, je vais le faire. Mais tu sais, je veux dire, pour essayer de. Tu sais, une rencontre avec quelqu'un pour essayer de développer quelque chose, dire on développe une idée, on va passer 1 heure ensemble. J'ai bien la misère avec ça à distance. Ben. Écoute, c'est mieux que rien. On est obligé, mais. Moi, je pense, c'est un peu comme Martin, que la vie normale va repartir. L'humain a besoin de voir du monde.
On est des bêtes sociales, il n'y a aucun doute pour moi.
Ben oui.
Tu sais, tu as une décision importante, tu viens de le dire. Tu as quelqu'un à qui tu veux partir une business, mettons une business de Rome au Vanuatu. Tu veux lancer ça. Tu vas faire ça au téléphone. Voici mon. Jamais, jamais. Tu veux le rencontrer, tu veux y expliquer ta démarche.
Exact. Hey, on a comme fini, nous autres, pour Radio Pirate Prime, c'est pas mal ça. Je sais qu'habituellement, on fait un bon bout avec Gilles, mais Gilles est avec nous autres là, donc on a jasé pas mal. Donc, on va faire Radio Pirate Live dans les prochains instants. Martin, merci, puis bonne chance pour ton père en passant. Donc, garde, gêne-toi pas, Monnaie, si t'as nous jaser un peu pour ta maison, tu cherches quelqu'un, on fera le message. On fera le message aux pirates, puis prochaine visite, gêne-toi pas non plus de venir nous visiter. On est pas sorteux, mais on est bien accueillants. Puis surtout quand tu amènes des beaux cadeaux à Jerry, oui, le rhum, et... il aime ça.
Puis le manoir sur mer à Berthier, c'est beau. De toute beauté. Là. De toute beauté.
C'est
un beau spot.
Bon, on est parti. On s'en va vers Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà, c'est fait pour le jeudi. On part le week-end tantôt avec Jerry l'aubergiste. Déjà, yes.